Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission. Aujourd'hui, on clôture cette belle semaine européenne. Belle semaine européenne, on peut pas dire que sur les clubs français on se soit régalé. Il y a eu 3 matchs, 3 défaites. Mais au moins, on va en reparler encore aujourd'hui à partir de 18h. Là, dans un instant, restez bien avec nous. On est là pendant 2 heures. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que on est vendredi soir. Et le vendredi soir, à partir de 19h, c'est le fameux multiplex. On lance cette 29e journée de championnat de Ligue 1. Et oui, on est à 6 journées de la fin. C'est génial. Et ben, on en parle avec tous nos correspondants à partir de 19h. Mais avant, sur la première heure, on a une belle équipe comme tous les jours. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît,
bah ça va. On va débriefer notre semaine européenne. On s'arrête là.
Écoute, c'est un vendredi spécial parce que Manu Petit, notre champion du monde, n'est pas là. On a sorti le dinosaure.
Ah oui.
Ouais, le dinosaure qui a fait une belle semaine, belle semaine. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut Jean-Mi. Bah oui, j'étais obligé de récupérer après le match de mercredi soir. C'était tellement, il y avait tellement.
Ah, t'es monté dans la capitale.
Je suis monté à la capitale. Ouais. J'ai redécouvert la capitale.
Ah oui, alors ça, j'ai eu le débrief ce matin.
J'ai marché dans la
un
capitale.
Un peu de marche dans Paris.
T'as vu, c'est bien. Hein. C'est bien, t'as
un
vu.
Un peu de marche dans Paris. Ah ben je me suis pris pour un slalomeur.
Ah ouais.
Entre les canettes vides, les papiers gras, les trucs. Oh. J'ai bien slalomé.
C'est bien de le dire, Madame Hidalgo va apprécier.
Et j'ai terminé dans une pharmacie pour prendre de la Ventoline parce que j'avais une allergie avec la pureté de l'air. Et il était trop pur. Bah, l'air était trop pur et sa main.
Bon. Normalement, il y a moins de voitures, il y a moins de pollution. Ouais. Bah, je sais pas, ça a bien marché.
Je dois être un cas particulier. Je suis un mec particulier.
Oh, je te rassure, t'es pas un mec particulier parce que moi qui suis en scooter, là, on en prend plein la tronche.
Ce qui m'inquiète, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas prêt de revoir Jean-Michel dans la capitale. Enfin bon, bref. Ouais, tant qu'il est avec nous, c'est le principal. Au programme ce soir, messieurs, on l'a dit, débrief de la semaine européenne de nos clubs français et projection sur cette 29e journée de Ligue 1, ça démarre ce soir. À 19h30, Jérôme, le LOSC est-il devenu la meilleure chance française en Coupe d'Europe cette saison? C'est la question qu'on se posera. À 18h30, on parlera du PSG cette fois. On va faire le procès de Luis Enrique, accusé d'avoir mis son équipe en difficulté mercredi contre le Barça. À voir qui va l'attaquer, qui va le défendre. Ce sera passionnant. Le verdict sera rendu par l'un d'entre vous d'ailleurs. Composez le 732-16 si vous voulez participer au procès. Et puis à 19h, le multiplex. Est-ce que le report des matchs du PSG, de l'OM et de Lille, nos clubs qualifiés en Coupe d'Europe, fausse le championnat? Vous entendrez l'avis des coachs de Ligue 1. On entendra Michel Derzakarian, Antoine Comboiré, Pierre Sage. On sera avec nos correspondants. Là aussi, vous pouvez participer au 32-16 et puis à 18h45, comme d'habitude, le casar enchaîné. C'est une journée exceptionnelle, Jérôme et Jean-Michel.
Ah oui.
Vous le savez, mercredi prochain, nous serons à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et à cette occasion, RMC vous offre 100 places. Pas n'importe quelle place. Les plus belles épreuves sont au programme. La cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, le judo, le tennis de table, de la natation. Bien plus encore, si vous voulez avoir cette opportunité unique, envoyez tout de suite Paris 2024, Paris comme la ville 2024, tout attaché au 732-16. L'un d'entre vous sera avec nous à 19h30 et viendra choisir ses places. C'est pas beau? Il y aura deux possibilités, vous choisirez les places qui vous intéressent.
Ah oui, soit le water polo, soit...
On verra, tu verras tout à l'heure. Et puis autre événement exceptionnel, c'est lié au J-100, ce sera lundi. Emmanuel Macron, le président de la République, sera l'invité exceptionnel d'RMC et de BFM TV de 8h20 à 9h, à 100 jours donc de la cérémonie d'ouverture. Il répondra aux questions d'Apolline de Malherbe, David Douillet, Mario Bartoli et Rémi Boulet. Il sera là avec nous. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, vosquestions@rmc.fr. Il est 18h04, vous écoutez RMC et Jérôme, Marseille y croit encore.
J'y crois encore.
Tenstedt qui est à l'entrée de la surface, pourquoi pas la frappe et le but ! Oh, le but du Benfica Lisbonne ! Rafa Silva !
On est vivant tant qu'on est fort !
Côté droit, la frappe en retrait, Di Maria 2-0 ! 2-0 ! Ils se sont fait manger, déposer les Marseillais !
On a la foi tout quand on dort !
Pour aller au bout, et monsieur Oliver qui siffle, écoutez, c'est une défaite pour l'OM, mais une défaite 2-1 à l'extérieur.
ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Mais... Et oui, pas de miracle, Jérôme. Pas de miracle, mais un espoir pour cet Olympique de Marseille. Défaite 2-1 des Marseillais hier sur la pelouse du Benfica. Quart de finale aller de la Ligue Europa. Résultat flatteur tant les Marseillais ont été dominés. Cinquième défaite d'affilée pour Marseille, toutes compétitions confondues. Malgré tout, la réduction de l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang donne plus de possibilités. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur olympien, y croyait après le match.
On est en vie, à 2-0, on n'était pas très bien. On avait beaucoup d'éléments contraires. On a perdu Quentin Merlin sur une entorse de la cheville. Chancel Mbemba ne pouvait plus. Il s'est sacrifié. C'est des choses à relever. Mais on a fait une dernière demi-heure pleine de qualité, d'orgueil, d'envie, et pour dire on ne veut pas quitter cette compétition.
L'optimisme encore et l'espoir de Jean-Louis Gasset. Retrouvons Florent Germain, notre correspondant à Marseille, qui a commenté le match sur AMC.
Salut les amis.
Salut,
bon, gros avis tranché de Benoît qui dit que c'est un résultat inespéré ou presque. Je suis pas tout à fait d'accord.
Bah, est-ce que tu peux
J'ai trouvé le Benfica assez moyen aussi, il ne méritait pas forcément de gagner 2 ou 3-0.
D'ailleurs, Florent, ça fait partie des motifs d'espoir pour l'OM. C'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Benfica, là on est d'accord.
Exactement.
Donne-nous des nouvelles. Oui, oui. Quel est l'état d'esprit des Marseillais justement avant le match retour jeudi?
Bon, alors malgré tout, il y avait un peu d'agacement parce que chez les dirigeants, même le coach, Jean-Louis Gasset ou Aubameyang, qu'on a eu en interview juste après le match, on sent parfois dans son attitude que, en plus lui, il a joué dans des grands clubs, dans des grandes équipes, les ballons ils arrivaient dans la course, dans les pieds où il fallait, et on voit que parfois il grimace un petit peu, et il y avait de l'agacement lié à certains coups qui ont été très mal joués par l'OM, notamment dans les 25-30 derniers mètres, il y a eu quelques mauvais choix, un peu trop d'extérieur du pied, et donc un Marseille qui aurait pu se créer beaucoup plus d'occasions et de situations de but, et donc ça a agacé un peu les Marseillais, ces imprécisions. Après, il y a le sentiment plutôt positif d'avoir fait douter le Benfica, que le Benfica n'est pas non plus n'a pas non plus survolé cette rencontre, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de sifflets, faut le noter, à la fin du match il y a eu une petite bronca du stade, et donc on a une équipe qui est aussi dans le doute, cette équipe portugaise. Donc il y a cet espoir de renverser ce quart de finale au Vélodrome, dans un stade qui sera plein, et peut-être avec des retours. Alors les infos blessés pour terminer, Merlin c'est confirmé par les examens, c'est une entorse de la cheville assez grosse, sa saison n'est pas forcément terminée, mais évidemment il sera pas là jeudi pour le match retour. Mbemba, il a eu des douleurs au genou, mais ce n'est pas une rechute, il devrait être présent jeudi prochain, faut pas avoir trop d'inquiétude pour le défenseur marseillais. Et puis l'OM, en tout cas le staff olympien, fait le maximum pour récupérer Jonathan Clauss et Ismaël Assar, les deux touchés aux ischios. On avait dit environ 3 semaines d'absence. A priori, ils peuvent être dans les clous, même si ce n'est pas acquis. Enfin, il y a un espoir de les voir retrouver le groupe pour le match retour contre les Portugais.
Merci Florent. Est-ce raisonnable d'y croire? 32-16, supporters marseillais, si vous voulez participer au débat. Jérôme.
Raisonnable, oui. Tu te mets à la place des joueurs de l'Olympique de Marseille, des dirigeants, des supporters, ceux qui aiment ce club, bien sûr qu'ils ont raison d'y croire. Il y a qu'un but à remonter, et là on parle pas du niveau des équipes de l'OM, de Benfica, de ce que tu veux. Tu vas avoir un stade Vélodrome plein, climat très hostile pour Benfica, même s'ils ont plus d'expérience du côté de Benfica et surtout plus de talent chez certains joueurs. On l'a vu hier, c'est pour ça qu'ils gagnent le match. Et là je rejoins Flo pour dire que collectivement Benfica c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Tu te dis qu'avec tout ça, oui, ils peuvent y croire. Moi, le seul bémol que je mettrais à ça, c'est que moi, je suis pas supporter de l'OM, je suis pas un amoureux de l'OM, je suis pas joueur de l'OM, je suis pas dirigeant de l'OM. J'essaye d'être le plus objectif possible, même si c'est un club français en Coupe d'Europe, et forcément, je penche vers le club français. Mais en toute objectivité, j'ai très peur que ça passe pas, parce que l'OM a encore montré hier tellement de limites techniques, tellement de déchets. Flo, tu le disais, quand il faut mettre une touche, ils mettent 2-3 touches chez certains. Quand il faut mettre 3 touches, garder le ballon, ils mettent une touche. Ils sont dans la panique totale. Il n'y a aucune créativité. Les joueurs qui sont là pour essayer d'être créatifs, franchement, c'est la Bérésina. C'est nul, mais nul, mais nul de chez nul. Et hier, il marque sur un miracle parce que le défenseur, je pense qu'il pensait déjà à savoir savoir j'intercepte et comment je relance. Et au lieu de penser déjà à contrôler le ballon, bah, il l'a laissé passer. Tant mieux.
Parce Antonio que Silva.
Ouais, c'est tombé sur Aubameyang. Et Aubameyang, là-dessus, le montre. C'est le mec qui met le plus de buts en Europa League cette année. Donc tant mieux.
10 matchs, 10 buts.
Mais des miracles, ça n'arrive pas très souvent et ça ne va pas arriver tout le temps. Donc bien sûr que je suis très sceptique.
Il y a quand même un motif d'espoir, c'est qu'il y a un OM très différent cette saison, toute compète confondue, à l'extérieur et à domicile. Et je regardais les résultats à domicile en Coupe d'Europe et Flo, tu les as tous vécus ces matchs, tu en as le souvenir. C'est un nul contre Brighton lors du premier match et ensuite 4 victoires et souvent des victoires assez solides. Donc il y a un effet Vélodrome quand même, même en Ligue 1 d'ailleurs.
Il y a un nul contre Pana aussi qui les a éliminés.
Le tir de Jean-Michel me fait craindre le pire sur l'analyse qui
mais
se
non,
conduit. Mais je précise quand même et je confirme qu'il y a eu des gros matchs que quelque part les matchs références, bon le match référence c'est évidemment Villarreal le 4-0, mais le match retour contre le Shakhtar a été un bon match et c'est vrai qu'au Vélodrome, si on doit ressortir quelque chose dans cette saison qui est galère, ça, on pourra pas le nier, il y a aucun problème, c'est une saison très compliquée. La petite éclaircie, elle vient souvent des matchs européens au Vélodrome, dans un stade qui sait répondre présent en général sur ces rendez-vous européens.
Allez, la faucheuse Larquet.
Non, par quoi je commence ?
Allez, Jean-Michel. Pour ton plaisir, c'est maintenant.
Non, Flo, je vais te faire plaisir, je vais commencer par quelque chose de vrai que tu as dit dès le début, c'est que l'OM a rencontré une petite équipe de Benfica.
Ah oui.
Déjà, tu as attaqué par ça, et c'est la pure vérité, parce qu'on se demandait si contre Toulouse, que Benfica avait rencontré auparavant, c'était un accident, parce que Toulouse méritait peut-être déjà d'éliminer Benfica.
Ah oui.
Et puis finalement, c'est une toute petite équipe de Benfica, avec 2-3 joueurs qui sont dignes de jouer dans cette équipe qui, dans le passé, a eu des footballeurs exceptionnels. Mais revenons à l'OM. Et dès que l'OM a rencontré des équipes un petit peu solides, alors quand elles sont très solides, l'OM n'existe pas, et quand elles sont un tout petit peu solides, tu faisais, Flo, de grâce, tu faisais état de la victoire contre le Shakhtar. Non, pas contre le Shakhtar à domicile. Ils sont à la rue, les pauvres. Le Shakhtar, je sais pas quand est-ce qu'ils s'entraînent, comment ils mangent,
où ils vivent.
Ils sont à la rue. Bon. Mais dès que ça a été un peu compliqué pour Jean-Luc Gasset, l'équipe, il y a rien dans cette équipe. Absolument rien. Il y a Aubameyang, point final. Alors, je me rappelle que tu m'avais un petit peu repris de volée, et j'aime bien les reprises de volée, Flo.
Ouais.
Tu m'avais repris de volée.
Quand c'est équilibré et pas le corps pas trop en arrière.
Ouais.
Lorsque j'avais taxé Mumbagna d'une certaine catégorie de footballeurs.
Ouais.
Hier, je pense
qu'il était descendu encore. Tu l'as mis dans quelle catégorie hier?
Je pense qu'il était encore descendu d'une division. Flo, honnêtement, on se fout de la gueule des supporters de Marseille quand on recrute un joueur pareil au mercato. Honnêtement, je ne sais pas.
C'est pas le seul.
Non, c'est pas le seul. Mais dans le mercato, il y a Merlin qui joue régulièrement.
Et je mercato crois d'hiver, tu veux dire.
Ouais. Mercato d'hiver, oui. Et je crois que c'est tout, non, Flo, régulièrement. Il n'y a que lui.
Oui, bah après, il y a le retour inattendu de Luis Enrique qui, je pense, a plus de temps de jeu que. Même prévu, lui n'espérait pas autant de temps de jeu. Et ça a été une surprise de voir
c'est
que
quand
l'OM
même,
le conserve.
Et il y a Ulysse Garcia qui n'est pas inscrit sur la liste de l'UEFA pour disputer ses matchs.
Et je pense que cette équipe de Marseille, il y a très longtemps. Et je trouve les spectateurs, les supporters de l'OM remarquablement patients, parce que cette équipe n'inspire rien, même pas un peu de d'enthousiasme. Il n'y a rien du tout. Et quand on regarde ce qu'ils font dans ces matchs-là, on ne voit strictement rien. C'est un miracle. Comme l'a dit Jean-Louis Gasset, ils sont encore en vie. Peut-être qu'ils peuvent passer, mais pourquoi faire ?
Pour jouer une demi-finale européenne, peut-être contre l'Atalanta Bergame. Alors maintenant, en France, on prend de haut des demi-finales européennes. Pourquoi faire? Bah oui, c'est sûr qu'ils vont peut-être peut-être pas aller au bout, mais s'il y a une demi-finale européenne contre la Atalanta Bergame, pourquoi faire? Tu sais, je vais te donner une réponse. Si c'est pas pour aller au bout, tu sais pourquoi faire, Jean-Michel? Et on en a parlé avec Jérôme Rotten et je le confirme à 100%, d'autant plus
après avoir passé quelques heures.
Non. Oui, non, mais avec Jérôme. Non, mais et je le confirme d'autant plus parce que j'ai passé pas mal de temps auprès des supporters avec tout l'imbroglio qu'il y a eu ces dernières 48 heures. Et je peux vous dire que cette aventure européenne, c'est le dernier, ce sont les derniers frissons de la saison et ça repousse l'heure du bilan.
C'est
l'éclaircie. Et je peux vous dire que quand il y aura élimination, là, les dossiers vont s'ouvrir et ça va faire très très mal. Donc, c'est pas anodin cette aventure européenne. Et en plus, moi je le répète, on est quand même dans un pays qui a du mal à se qualifier pour les quarts, pour les demi. S'il y a une demi-finale contre l'Atalanta, moi je serai au jeu.
Alors Flo, je retire ce que j'ai dit. Faut pas plaisanter quand même, non plus. Mais je dis que ce sera une petite éclaircie pour les supporters de l'OM et pour les joueurs. Mais honnêtement, j'ai rarement vu, Flo, au cours des dernières années, une équipe de l'OM aussi peu talentueuse.
Mais c'est pour ça. Mais Jean-Michel, c'est pour ça. C'est pour ça que. Imagine juste, et là je vous rejoins, imagine juste cette équipe, ce groupe-là fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais c'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle.
Et de la deuxième Coupe d'Europe, la Ligue Europa.
Et je vais vous dire, même si c'est un petit Benfica, c'est pour ça que moi j'y crois pas. Parce que je me dis que au d'un moment, il y a une justice dans le football. Tu vois, t'es rattrapé par tes limites. Et là, il y a tellement de limites que déjà faire un quart de finale d'Europa League, c'est un miracle. Mais l'avantage du tirage, c'est-à-dire que quand en huitième, t'as joué malheureusement une équipe qui vit ce qu'elle vit depuis pas mal de mois, le Shakhtar Donetsk, et qui en plus sortait d'une trêve, était en vacances, donc tout ce que tu veux, était passé ric-rac.
En barrage,
oui. Était passé ric-rac par rapport à ce dernier quart d'heure au Stade Vélodrome où là, t'as pris l'avantage et t'as retourné le résultat. Mais je suis désolé, dire cette équipe, si elle s'offre Benfica, parce que Benfica est faible, mais ça voudra dire que Benfica est encore plus nul s'il passe pas. Parce que c'est pour ça que je te dis, c'est quand même une anomalie de voir une équipe aussi faible. T'imagines quand même que des mecs qui jouent hier, l'effectif de l'OM, alors il y a les blessures, si vous voulez, il n'y a pas de souci.
Mais offensivement,
il y a quasiment tout le monde. C'est défensivement, mais offensivement, il y a quasiment tout le monde. Et me dites pas, j'attends
Sarr surtout.
Ouais, Sarr dans la créativité. S'il vous plaît.
Dans ta bonne période, c'était intéressant.
Avec Jean-Luc Gasset, Jérôme. Oui, ouais. Avec Jean-Luc Gasset, il a fait du bien et il avait trouvé, un bon complément avec Aubameyang.
Comme Ndiaye sur deux matchs, mais Ndiaye, on l'a vu hier, quand il rentre, c'est catastrophique. Le mec avec ses chaussettes baissées, qu'est-ce que tu veux? On dirait Bruno Bellone de l'époque. Et encore, Bruno Bellone, il faisait des différences. Mais lui, c'est pas possible. Il peut pas jouer à ce niveau-là, les gars. Il prend le ballon arrêté. Harit, jamais dans le sens du jeu, jamais. Et pourtant, Flo, tu as raison.
C'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur footballeur.
Oui, mais c'est le meilleur footballeur. Mais à force de dire que c'est le meilleur footballeur,
le mec,
l'impression qu'il a un niveau. Tu l'entends parler. Je l'ai entendu hier en conf de presse. Mais mon coco, tu sais quoi? Baisse la tête, va dans le quart et concentre-toi sur le match retour. Mais hier, rien que lui, déjà, en première mi-temps, il a 2-3 opportunités parce que Benfica est pas bon. Il a 2-3 opportunités de faire briller ses coéquipiers en tant que meneur de jeu, joueur offensif, milieu de terrain créatif. Mais c'est jamais dans le sens du jeu. Il envoie des parpaings. C'est un miracle qu'Aubameyang il arrive à marquer autant de buts dans cette équipe.
C'est sur une erreur défensive.
C'est pour ça.
Et d'ailleurs, c'est l'un des dossiers chauds de la saison parce que, pour vous parler un petit peu des coulisses, souvent les dirigeants de l'OM et notamment Mehdi Benatia ont dit à Aubameyang, parce qu'Aubameyang c'est un peu déjà il est respecté par sa carrière, ses stats, son charisme, etc. Et souvent les dirigeants, notamment donc Mehdi Benatia, il lui a dit mais Pierre-Emerick, arrête d'être trop gentil avec tes coéquipiers. À un moment donné, il faut que tu leur passes un savon. Tu les pourris s'il faut. Flo, quand il y a un Minarid, quand il y a un Unai qui donne pas le ballon dans le bon tempo. Moi, je pense qu'il y a un vestiaire trop gentil et qu'au final, ça aura porté préjudice à cette OM. Exactement.
Flo, c'est sûr.
On veut pas faire de vagues, on est copains, etc. Mais à un moment donné, il faut bouger son coéquipier, je pense.
Captain, je comprends. Avant d'accueillir Sofiane.
Je comprends que l'on ne veuille pas prendre des décisions et qu'on soit robinet d'eau tiède. Mais c'est pas à un coéquipier de dire à son coéquipier tu me gonfles parce que tu ne fais pas ce qu'il faut en termes de solidarité, d'investissement. Tu sais qui est-ce qui doit dire ça? c'est monsieur Gasset ou monsieur Benassia qui doivent le dire d'abord. C'est en premier lieu.
Mais ils l'ont fait, je pense que dans le vestiaire.
Honnêtement,
t'as jamais remonté les bretelles à un coéquipier, toi, Jean-Michel. Je suppose que, en tant que capitaine, tu as dû le faire.
Non, alors je vais te dire, j'ai remonté de temps en temps les bretelles. Non, c'est même pas ça. C'est même pas remonter les bretelles. J'ai peut-être élevé la voix sur un coéquipier et puis c'était terminé à la fin. Mais celui qui donnait les consignes, celui qui disait à quelqu'un d'en faire davantage, celui qui prenait les décisions, qui virait les joueurs de l'équipe titulaire quand ils n'avaient pas fait un bon match, c'est pas le capitaine.
C'était l'entraîneur.
C'est pas le meilleur joueur, c'était l'entraîneur.
Ouais. Qui a donné la parole à Sofiane, supporter de l'OM, qui a composé le 32-16.
Salut Sofiane.
Salut Jérôme,
bienvenue Sofiane. Bon alors, j'imagine.
Salut Sofiane.
Toi, supporter de l'OM, tu y crois pour la qualif sur le match retour?
Moi, Jérôme, je suis assez surpris de votre position dans le sens où, bien sûr que j'y crois, mais moi, je pense que, tu sais, Jérôme, que Marseille ne soit pas une bonne équipe cette année, le championnat, c'est le juge de paix, ça, on sera d'accord.
C'est un fait, oui.
Maintenant, Jérôme, est-ce que tu sais c'est qui les trois dernières vainqueurs de la Ligue Europa? T'as Villarreal qui l'a gagné en 2021, Francfort en 2022, et l'an dernier c'est FC Séville qui l'a remporté.
Ouais.
On parle de trois équipes qui ont fait des championnats catastrophiques.
Ouais. Mais t'as vu les joueurs qu'il y avait dans ces équipes-là, Sofiane?
Regarde le talent qu'il y avait dans l'équipe.
Non, parce que on regarde juste les équipes. Je me parle de Francfort, mais rappelle-toi du secteur offensif de Francfort. Je sais pas si c'est le jour et la nuit avec ce qu'on voit de l'OM. T'es d'accord avec moi quand même?
Moi je sais pas. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que dans cette équipe de Marseille, moi, sur le match d'hier, je suis d'accord avec toi que dans la créativité, c'est pas terrible. Maintenant, un mauvais Marseille hier, je suis assez d'accord avec toi, moi je me contente assez aisément du 2-1. Un mauvais Marseille ne perd que 2-1 à Benfica.
C'est vrai, mais c'est pour ça que tu as des raisons d'y croire, tu as raison.
Bien sûr, et tu as un match retour au Vélodrome. Moi, là où je vous trouve aussi dur avec Marseille, c'est que quand même, cette année en Coupe d'Europe, t'as pas été ridicule à la maison face à des bonnes équipes européennes quand même.
On l'a dit. Ouais.
Face à Villarreal, face au Shakhtar. Shakhtar est devenu une équipe bidon depuis que Marseille les a joués.
Ah, Sofiane. Mais Sofiane, regarde la saison du Shakhtar. Regarde ce qu'ils font dans leur championnat. Ils sont largués de chez largués.
Je les ai vus en Ligue des Champions, Jérôme. Ils étaient loin d'être ridicules. Et même contre Marseille, je les ai pas trouvés mauvais. Alors oui, effectivement, le contexte est parti. Et bien sûr, il y a la guerre. Ça, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que le Shakhtar, le même Shakhtar l'année dernière, joue Rennes, ils les ont sortis. Donc le fait que Marseille sorte ce Shakhtar-là, c'est pas anodin.
Sofiane, juste une chose. Tout à l'heure, Flo a parlé de l'effet Stade Vélodrome. Moi, j'appelle
l'effet
ça
le Stade Vélodrome.
L'effet Stade Vélodrome. Et moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'auparavant, l'Olympique de Marseille, je le jugeais comme ça, avait des difficultés à faire le jeu à domicile et gagner pas autant de matchs qu'il n'en gagnait à l'extérieur. Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, c'est à l'extérieur que l'OM... Comment ?
L'an dernier aussi, capitaine.
Et peut-être même l'an dernier. Ouais. Mais c'est à l'extérieur que l'Olympique de Marseille faisait ses meilleurs matchs et obtenait les meilleurs résultats. Et ça, c'était quand même la preuve d'une équipe relativement solide, Sofiane, tu vois. Alors, à domicile, elle était gênée par un manque peut-être de créativité. C'était le début de la fin de Dimitri Payet. C'était bon, mais au moins à l'extérieur, c'était une équipe solide. Là, à l'extérieur, elle n'existe pratiquement plus.
C'est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur, on le rappelle. Hein. Toutes les équipes de Ligue 1 font mieux que Marseille à l'extérieur.
Et ça, c'est un signe. Ça, Sofiane, honnêtement, c'est un signe très inquiétant.
Mais Jean-Michel, après, pour comprendre Sofiane et les supporters de l'OM, ce qui est normal, c'est qu'ils y croient aujourd'hui, même les joueurs. Heureusement. La seule chose, moi, où je me méfie, c'est sur l'autocritique des mecs. Parce que, encore une fois, ça te... t'embellis la saison de l'OM pour l'instant, le parcours qu'ils sont en train de faire, le quart de finaliste d'Europa League, c'est pas rien non plus, surtout nous club français, vaut mieux que il faut pas faire la fine bouche là-dessus, tu vois. Donc mais je suis pas sûr que ça rende service à certains, parce que encore une fois, quand je les vois le niveau, j'ai pas l'impression que certains mecs progressent et se rendent compte de leur niveau en fait. Tu vois, je me dis juste que si ils jouent sur l'envie, sur le fait que le contexte va être
extrêmement hostile pour Benfica parce que ça va être un vélodrome de malade, d'accord. À l'arrivée, il y a
qu'en face, on va le dire, le répéter pour la énième fois.
Bien sûr.
Benfica est une petite équipe de Benfica.
Sauf que la différence, c'est raisonnable. Et moi, c'est pour ça que j'ai du mal à y croire, c'est qu'il y a quand même 2-3 joueurs de grand talent du côté de Benfica. Et ces joueurs de grand talent du côté de Benfica te font gagner le match hier. Et ils peuvent très bien le faire. Parce que, bon, quand t'es champion du monde, et il y en a deux du côté de Benfica, quand t'es champion du monde, le climat hostile à Marseille où c'est chaud, je pense que, bon, tu sais quoi, ça joue pas trop sur
la réalité. Di Maria, il a connu quelques sifflets au vélodrome. Oui, c'est sûr. Merci à Sofiane qui a
participé au débat en tout cas.
16. Un grand merci à Florent Germain.
Merci à vous. Du coup, Jérôme, tu vois qui allait en demi, plutôt Marseille ou tu penses que Paris sera en demi?
Je suis pessimiste
pour Marseille. Pour lequel des deux t'es le plus confiant?
Je vais te dire, je suis pessimiste pour Marseille, je suis pessimiste pour Paris et je suis optimiste pour Lille.
Bah, tu réponds déjà à notre débat de 19h30 pour Lille. Parce que Lille est la meilleure chance française.
Lille m'a vraiment fait plaisir. Au moins, ils ont fait honneur.
À Aston Villa. Merci Florent Germain.
Merci les amis.
Petit détour par le Masters 1000 de Monte Carlo. C'est un tournoi que tu adores, Jérôme. C'est le début de la saison de terre battue. Avec la suite des quarts de finale et la qualification pour les demi de Novak Djokovic. Salut Eric,
salut à tous. Salut Jérôme. Ouais, c'était pas brillant, c'était winning ugly, c'était pas beau, c'était ugly, c'était affreux, mais bon, ça passe.
Les
pour Novak Djokovic, surtout un deuxième set vraiment bien loin de ses standards habituels, mais il est qualifié pour les demi-finales de Monte Carlo. Ça lui était pas arrivé depuis 2015 et on espère qu'il retrouvera demain un Français sur sa route, puisque dans quelques minutes, Jérôme, le quart de finale qui nous intéresse entre Hugo Humbert et Casper Ruud.
Ah, mais tu crois encore, toi, qu'il va renverser Ruud? Ouais, t'as raison.
Mais tu l'as pas vu jouer, Hugo, là. Il sera 13 mondial lundi. Wow. Hein.
Ben voilà. Respecte-le. Et on rappelle l'autre demi-finale opposera Tsitsipas à Sinner. Donc les grands noms sont là. Et
j'y crois plus, en fait. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y crois plus.
Allez, merci Eric. À tout à l'heure, on va suivre en fil rouge ce match d'Hugo Humbert. On aura également du basket avec le deuxième match de la finale de l'Eurocoupe entre deux clubs français, Bourg-en-Bresse et Paris. C'est Paris qui a remporté le match 1. C'est à Bourg que ça se passe cette fois-ci. Ça démarre à 19h30. Et nous, dans un instant, on ouvre le procès de Luis Enrique, qui va être accusé d'avoir mis son équipe en difficulté mercredi contre Barcelone. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme de ce vendredi soir, dernier jour de la semaine. Oui, une semaine éprouvante pour les clubs français. Oui, on s'est régalé tout au long de la semaine, bien sûr, d'analyser des matchs comme ça, des grands matchs, la plus belle des compétitions, l'Europa League, la Conference League. Oui, on s'éclate avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on aura le temps de se détendre parce que oui, on est encore là jusqu'à 20h. Donc il y a du boulot encore. On va se détendre avec le moment de Julien Cazard et son Cazard enchaîné.
Et à 19h, le multiplex. Est-ce que le report des matchs des clubs qui ont joué en Coupe d'Europe cette semaine fausse le championnat? Vous entendrez les coachs de Ligue 1 qui ont été.
C'est une anomalie, en tout cas,
sur le sujet.
Ça nous offre pas un beau week-end de football en France.
Tout de suite,
vu les affiches,
on reparle du PSG. C'est vrai ça.
RMC Roten sans flamme.
Je m'en fous, moi. Mais je suis pas Didier Deschamps. Bon, moi, je suis Jérôme Roten, sélectionneur.
C'est scandale. Oh, de la tête de con qu'il a.
Faites entrer l'accusé.
Ah, c'est un nouveau classique, coach Corbis.
Ça que ça vient du fond du cœur.
Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, Jérôme, Jean-Michel, il n'a pas pu s'en empêcher.
Moi, je sais.
Luis Enrique a encore surpris tout le monde mercredi contre Barcelone. Quart de finale de la Ligue des Champions, défaite 3-2. Deux choix forts de la part du coach parisien. Il a titularisé Asensio devant et Kang In-Lee au milieu. Donc encore un 11 surprise concocté par le Catalan. Des choix perdants. Asensio a été remplacé par Barcola dès la mi-temps. Lee a cédé sa place à Warren Zaïre-Emery à l'heure de jeu. Autre habitude maintenue malgré l'enjeu du match. L'annonce tardive de sa composition d'équipe au tout dernier moment. Alors ce soir, Luis Enrique est accusé d'avoir mis son équipe en difficulté face au Barça. Mercredi, l'accusation est menée par le procureur Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir.
Luis Enrique est défendu par maître Roten. Bonsoir, maître.
Bonsoir à tous.
Et un supporter parisien viendra rendre son verdict. C'est Aubin qui nous rejoint. Salut, Aubin.
Bonjour, et j'aimerais bien avoir les mêmes titres honorifiques que les personnes que je vais être amené à juger, s'il vous plaît, merci.
Aubin, reste à l'écoute. En tout cas, on lance le procès avec la prise de parole du procureur. Monsieur le procureur, les choix et le timing de l'annonce à ces joueurs vous posent problème.
Non, mais il doit juger Luis Enrique. Il a déjà donné son verdict, notre Aubin. Donc c'est
mais peut-être que votre plaidoirie va tout changer.
Mais c'est pas grave. Je suis de plus en plus énervé et le match, mais l'avant-match m'avait déjà... J'aurais tant aimé avoir tort de ce que je pensais, que, mais finalement j'ai eu raison parce que déjà à l'échauffement, il joue au malin. Alors moi, il fait ce qu'il veut, il fait la composition d'équipe qu'il veut, il fait des essais avant le match, il fait des essais pendant le match, il fait des essais quand il veut, il fait même des essais et de l'intox à l'échauffement. Il y avait une mise en place à l'échauffement. Alors, quand je ne suis pas sur place, je ne peux pas voir l'échauffement. Mais même là, il essaie de prendre les gens pour des idiots. Quand je dis pour des idiots, je suis poli. Parce que dans ses plaidoiries, il dit « non, mais importa ». Et ça ne, je m'en moque de ce que pensent les gens. Moi, je suis Luis Enrique et j'ai un palmarès et j'ai des titres honorifiques, comme dit Aubin. Non, il n'a pas que des titres honorifiques, il a des vrais titres avec des vrais footballeurs et une vraie Masia qui faisait jouer les joueurs de Barcelone de la même façon quand c'était Luis Enrique, Guardiola et compagnie. Bon, donc, je ferme la parenthèse. Mais à l'échauffement. Je regardais, je me disais quel va être le rôle d'Asensio. Alors à l'échauffement, le piston gauche offensif, c'était Nuno Mendes, qui était bon au demeurant.
Ouais.
Mais c'est lui qui débordait et qui centrait. Le piston droit, alternativement, c'était Dembélé et Kangingli, qui centraient sur un avant-centre qui s'appelait Mbappé. C'était Mbappé qui était dans l'axe. Et Asensio, je le cherchais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu à l'échauffement comme je ne l'ai pas vu en match. Et cet homme-là est un chercheur qui cherche mais qui ne trouve jamais. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il a été obligé de changer. Il a prouvé par les changements à la mi-temps qu'il s'était trompé. Mais c'est pas grave. On va rechanger. On va bricoler un petit peu. Et ce garçon-là me semble être un génie totalement incompris. Où j'enlève-t-il un génie ? Je dis un incompris, parce que c'est pas un génie. Et les joueurs étaient perdus. L'entrée de Zaïre Emery, moi je me demande comment Zaïre Emery, qui est présenté comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis quelque temps, même s'il a un coup de mou, quand il est entré, il a fait un bon match, le petit Zaïre Emery. Il a fait un bon match, bien meilleur que certains des titulaires. Donc, ce Luis Enrique, il cherche, il fait des essais tout le temps, mais des essais qui se concrétisent par d'autres essais. Et bon sang, bonsoir, on sent que cette équipe-là n'a pas de repères. Que Marquinhos, qui a commencé à droite, qui a fini au centre.
Après, ça, c'est un choix par défaut, par exemple, parce qu'Hakimi était suspendu.
Que Lucas Hernandez joue à droite en étant gaucher. Alors, quand on est en attaque, ça va. Quand on est en défense, c'est un petit peu plus compliqué. Non, honnêtement, il est perdu. Je ne pense pas qu'il soit perdu, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot. Mais véritablement, cet homme-là, il est en train de creuser son trou et de creuser le trou du Paris Saint-Germain. Quand on voit le match de Mbappé contre
Barcelone,
c'est à se demander quelles consignes lui ont été données. Enfin, c'est fou, c'est un désastre total. Le replacement défensif, enfin, quand Alors. Je dis défensif, le replacement tout court, il n'existe pas. Il y a des manquements dans cette équipe fabuleux et ils sont encore en vie parce que 3-2, on ne sait jamais. Ils sont pas encore en vie ?
Si, ils sont encore en vie. Mais
ils sont encore en vie.
C'est fini là ?
Donne-moi la parole à la défense.
Ah, c'est plus qu'un monologue, justement. Ah, il nous fait l'émission entière.
C'est un monologue, puisque
j'ai l'émission entière. Excellent, donc c'est pour ça qu'il fallait laisser
la. Ouais, je suis pas sûr. Il a tourné en rond. Alors après, c'est. Moi, pourquoi je veux défendre Luis Enrique ? Je vais pas contredire Maître Larquet. Je suis assez d'accord sur beaucoup de points, sur l'invention de Luis Enrique, encore plus sur ce match-là, sur le choix des joueurs. Il y a pas de souci, je vais pas aller sur ce terrain-là. On l'a tous vu, on l'a tous dit. Ça nous a surpris et ça a surpris même son équipe parce qu'elle a pas été performante. Donc ça, une fois que t'as dit ça, ok. Mais moi, je suis désolé sur ce genre de rencontre et on les a joués avec Jean-Michel. Donc ça tombe bien qu'il soit là et qu'il en parle. Sur ce genre de rencontre, l'entraîneur a sa part de responsabilité, mais sur tous les joueurs. Les joueurs, quand tu te sens trahi, que ça soit les supporters, les amoureux du PSG, les dirigeants, l'entraîneur, les remplaçants, les titulaires, certains titulaires ont trahi ces gens-là.
On trahit. D'Asensio
Jean-Michel. Moi, je suis désolé, j'attendais déjà qu'il y ait un autre état d'esprit, qu'il y ait des joueurs conquérants, des joueurs qui aient envie de courir ensemble, qui aient envie de faire mal à l'adversaire. Parce que je suis désolé, ces matchs-là, Jean-Michel, tu le sais très bien et encore mieux que moi, que comment tu renverses une équipe en quart de finale de Ligue des Champions, c'est déjà en termes d'état d'esprit, de duel, tout ce que tu veux. Et quand tu parles de duel, rentrer dans les duels, pourquoi le PSG n'arrivait pas à rentrer dans les duels, avait toujours un ou deux mètres de retard, parce que l'état d'esprit était pas bon, et parce que t'avais pas envie de te faire mal. Pas plus que d'habitude, et ces matchs-là, tu dois te faire mal plus que d'habitude.
Le quart de finaliste qui a le moins couru.
Et ben, j'en reviens à ça. J'ai vu les stats. J'ai pas eu besoin d'avoir la confirmation par les stats parce que j'ai revu le match encore. Et surtout la première mi-temps. Je parle pas de la deuxième mi-temps. Parce que là, ça va aller contre Maître Larquet. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, dans ces cas-là, autant on dit Luis Enrique s'est trompé sur la première mi-temps et sur l'approche du match, autant la deuxième mi-temps, on dit il a eu raison parce que le premier quart d'heure.
Quand tu joues un quart de finale de Ligue des Champions, il vaut mieux réussir les demi-temps.
On peut pas dissocier ce que je veux dire, la première mi-temps et la deuxième avec les choix de Luis Enrique. Les choix sont un peu plus cohérents sur la deuxième mi-temps et il y a eu l'avantage de revenir très vite à un partout, de prendre l'avantage et limite de mener 3-1. Et si c'est le cas, il est aussi responsable. Mais après, à côté de ça, même s'il a fait des dingueries encore sur ce match, je suis désolé, les joueurs, Jean-Michel, quand tu joues à domicile dans un stade, un Parc des Princes, et qui était fabuleux, c'était la meilleure ambiance de tous les quarts de finale, que ça soit l'équipe qui est le moins couru des quarts de finale sur les sept autres quarts de finalistes, ce n'est pas possible. Donc c'est bien un problème d'état d'esprit. C'est que certains joueurs.
Un problème de tactique et des systèmes.
Oui, je pense pas que Donnarumma, ça soit un problème de tactique. Je pense pas que Kylian Mbappé, dans l'envie de se surpasser, ça soit un problème de tactique. Bon. Je pense pas que Vitinha, qui a repris le dessus en deuxième mi-temps.
Alors, messieurs, les plaidoiries sont terminées.
D'entraîneur aussi.
C'est le moment du verdict qui va être rendu par Aubin, donc notre juge du soir. Aubin, qui remporte ce procès alors ?
Salut Aubin.
Alors en préambule, je dirais que Monsieur Larquet, vous m'avez mal jugé au départ. Quand je parlais de titres honorifiques, c'est simplement les titres dus aux juristes. On a parlé de Maître Larquet, de Monsieur Procureur, de Maître
Le juge. Le juge Aubin.
Et j'aimerais bien qu'on parle de on parle de Monsieur le Président pour ce tribunal.
Ah oui.
Ce préambule étant fait. J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres. La difficulté qui se pose là pour moi, c'est de me poser la question pourquoi notre entraîneur a mis des joueurs sans référence sur la saison 2023-2024. Asensio, ce fut un grand joueur. Pour l'instant, il n'a rien fait avec le PSG. Kangingli, il a fait deux bons matchs au début de l'année. Il s'agissait même les mettre en difficulté. On arrive en 2018, on arrive en 2024. On a un serial buteur qui nous met 8 buts et il y a un an et demi, met un triplé en quart de finale de Coupe du Monde. Il s'appelle Gonzalo Ramos. Pourquoi il est sur le banc?
Donc, Aubin, si je comprends bien, c'est plutôt Jean-Michel qui remporte le procès. C'est les choix de Lucien Riquet que tu sanctionnes. Ok.
Évidemment, en fait, il s'est mis une difficulté, à mon sens. Il n'avait pas besoin de se mettre dans de telles difficultés.
Bon, ok. Merci Aubin.
Et Aubin,
le verdict est rendu.
Ça t'a pas, ça te choque pas toi que le PSG soit l'équipe qui est le moins couru des quarts de finalistes.
Si vous avez une réflexion à faire, vous faites appel.
C'est une conséquence.
Je pense que quand tu t'appelles Aubin pour avoir joué quelques matchs de ce niveau-là, tu vois, quand tu t'appelles Mbappé, tu t'appelles Kangingli, tu t'appelles Asensio, tu t'appelles Ruiz, tu t'appelles Vitinha, tu t'appelles tous les autres joueurs, t'as pas besoin de l'entraîneur pour courir et de faire des efforts.
Monsieur Rotten, le juge incorruptible. Donc c'est Jean-Michel Larquet qui remporte ce procès. Le procès de Luis Enrique. Et dans un instant, on va se détendre. On va accueillir justement un grand supporter du Paris.
Il était nul le juge.
Julien Cazard. Hier il a été fabuleux.
Le Cazard enchaîné. À tout de suite.
RMC Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. Mais vous inquiétez pas, on est là, on revient après 19h avec nos fameux multiplex. On est vendredi soir avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. Oui, on passe un bon moment et ça va être encore mieux avec tous nos correspondants qu'on a hâte de retrouver.
Exactement.
À 19h, mais là avant, c'est le moment de Julien Cazard pour se détendre. Allez, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut,
nous
Julien.
Sommes le. Salut les copains, salut la team, comme on dit chez les Jones. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024 et le PSG n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions. L'OM n'est toujours pas éliminé de l'Europa League et Lille n'est toujours pas éliminé de la Conference League.
On n'a jamais été aussi proche.
C'est vrai.
Ouais, ça, c'est une belle semaine. Hein.
Ah, voilà, une belle semaine. Hein, mais franchement, profitons-en. En préambule de ce journal, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une légende. Oui, une légende du PSG de ton époque, Jérôme.
Ah
oui, il n'y en a pas eu beaucoup à ton époque, des légendes du PSG.
Non,
mais il y en avait une.
Moi, j'en vois pas.
Alors, effectivement, à part toi, il y en avait une autre qui nous a fait vibrer un soir de Coupe d'Europe et qui a enflammé le parc comme jamais. Ah ouais.
Ça a fusé sur le sol. Voilà. Voilà.
Oh, quel rêve! Mateja Kezman qui a 45 ans aujourd'hui. Quelle légende! Incroyable, incroyable. Tu te rappelles cette soirée de folie au parc avec Luindoula, là. Mais le parc était en fusion, hein. Ça nous envoyait, je sais plus si c'était en demi-finale ou en quart de Ligue des Champions. C'était. Je sais que c'était la folie. Attends, c'était quoi déjà?
C'est ça. 16ème, c'est ça.
Ouais. Ouais, les mecs. Ouais, c'est la folie dans le parc. On est qualifiés pour les 16e de l'Europa League.
Et cette année-là,
c'est
on
notre
fait quoi,
époque.
Quart
hein.
de finale, c'est ça.
Je préfère pas parler de ce moment.
Okay, c'était en quart contre Kiev.
Ah, voilà. Kiev, avec le fameux top speed.
Un quart de
effect.
Coupe d'Europe comme cette année.
Un quart de
finalement.
Coupe d'Europe, ouais.
Non, mais tu te rends compte que là, à ce moment-là, quand il y a le feu au parc.
Et t'avais été éliminé par Kiev. Moi, j'ai écrit.
Du moins, on était éliminé par Mikael Ongro.
Oui, souvenez-vous de ce match.
Non, mais attention. Moi, je comprends qu'on s'enflammait à l'époque parce qu'à cette période-là, ok, t'es éliminé, mais par contre, beau parcours en Coupe de France puisqu'il est éliminé au deuxième, troisième tour contre Rodez. Et puis surtout, beau parcours en championnat puisque t'es pas dans le top 5, mais vraiment. Et puis, la belle époque, les gens étaient en folie. On savait savourer les bonnes choses. Voir ce match contre, le but de Kezman, là, c'est pas n'importe qui, ils font face, hein. Tu sais quelle équipe c'était?
C'est qui, Jérôme?
C'était Twente. Ah. Alors, ce nom ne vous dit rien, parce qu'aujourd'hui, ils sont même plus dans les. Si. Ah ouais.
Avec un avançant qui devait s'appeler Youri Mulder.
Ouais. Voilà, c'est pour dire à quel on s'en souvient tous. Ah non, mais attends, il est dans les highlights réguliers. On se le mate avec Ronaldo, Platini, tout ça, de Thierry Mugler là. Et en tout cas, à la belle époque, on savait savourer. Non, mais en fait, on savourait. Et ce match, je m'en souviens parce que c'est un match pourri contre Twente qui ne joue rien en face. Pour savoir que Twente eux ne jouent rien, hein. On gagne 4-0 contre une équipe qui ne joue rien. C'est quand même formidable. Et on se qualifie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que si t'as du caviar trop souvent, tu profites pas. Alors qu'à l'époque, on mangeait de la merde. Alors quand on voit arriver un radis avec un bout de pain et du beurre salé, mais on se régale.
Mais c'est bon. Mais c'est
oui,
bon.
C'est bon. Mais sauf que le goût de la merde revient très vite quand t'as mis Carl Lambert dans les buts. C'est ça le problème. Allez, sommaire. Oui, on se souvient. L'effet top spin en quart de finale. Dans cette édition. Ah non. Dans cette édition.
Il a mis un effet incroyable.
Ah ouais. Ouais, c'est le plus beau CSC de l'histoire de la Coupe d'Europe, on peut dire.
Ah, je pense. Ouais.
Dans cette édition, nous reviendrons sur la merveilleuse performance de l'Olympique de Marseille qui a tenu contre le Benfica de Lisbonne pour ne s'acquitter que de 1, un match très courageux. Ah. Vraiment un match. Hein,
super performance, ils ont perdu quand même.
Mais tais-toi, Benoît, enfin, tu veux casser le moral des Marseillais? Tu trouves que la saison est pas assez difficile? Merde! Putain, on s'est mis d'accord avant. Benfica accueillait l'OM avec ses forces et ses faiblesses, dont une a été ciblée très clairement par un auditeur. Tu sais qu'on a des auditeurs qui viennent de partout, nous, à RMC, et on a des auditeurs portugais, supporters du Benfica. Et à l'avant-match, il y a un benfiquiste, il connaît très bien son équipe, et il avait très bien ciblé le point faible du Benfica.
C'est pas l'unanimité
J'ai
toujours aimé ce joueur, toi.
Pour moi, c'est une catastrophe.
Ah ouais, à ce moment-là.
C'est catastrophique.
Mais tu es confiant
que. Deux passes qu'il a de ballon.
Ten Stead qui est à l'entrée de la surface, pourquoi pas la frappe et le but. Oh, le but du Benfica Lisbonne. Rafa Silva.
Non mais c'est bien parce que le mec, il nous expliquait que c'était une catastrophe ce mec. Il rate plus de... Ah ouais, non, il est nul. Non mais tu sais, c'est important de voir les gens qui suivent leur club, parce que nous on connaît pas bien, tu vois, et on a des supporters qui nous appellent parce qu'ils regardent tous les matchs. Et lui, il le savait, que Rafa Silva, c'était une pipe. Donc ça fait plaisir. En revanche, cette défaite aurait dû être un match nul s'il n'y avait pas eu le scandale sur le deuxième but. Le scandale.
Le scandale. Quel scandale?
Pardon?
Quel scandale?
L'erreur d'arbitrage énorme.
La frappe en retrait Di Maria, 2-0. 2-0.
Non mais attends, mais personne
qu'est-ce que c'est que ce montage foireux que tu nous as sorti?
Personne n'a relevé.
Non mais Benoît, putain, ça fait deux fois, tu comprends pas, tu vois pas qu'on essaye de ménager le suspense, on essaye de créer l'événement là. Tu sais qu'à Marseille ils sont en PLS là, si on fait pas ça, mais on perd tout le monde. Donc malheureusement, malheureusement on peut pas toujours dire la vérité. Parce que le peuple marseillais, il ment pas, il a pas de problème, mais il a un problème avec sa, il a une vision de l'honnêteté qui est la sienne. Hein, c'est... D'ailleurs par exemple Flo Germain, qu'on a eu tout à l'heure. Flo Germain, bon, quand il va être honnête, il prévient à l'avance, parce que comme ils n'ont pas l'habitude, podcast. Mais c'est culturel, mais vous êtes marrant, vous. Mais non, mais allô, ne dégoûtez pas les autres de la. Alors, Flo Germain, podcast Marseille, il y a 20 minutes de podcast, et à la fin, il prévient, attention, je vais être honnête. Attention.
Est-ce que son management trouve ses limites, Flo? Toi qui observes quasiment au quotidien les effectifs de Marseille.
Écoute, je vais être honnête, puisque tu me demandes mon avis.
Putain, il va être honnête. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça va être un truc de ouf. Il va être honnête, le mec.
Sur un laps de temps aussi court, ouais, parviendrait à tirer vraiment beaucoup, beaucoup plus de ce groupe-là.
Oh là là, le truc de ouf! T'as le mec, il a été d'une honnêteté, là! Oh, je vais pas m'en remettre. Oh là là,
putain, moi, je m'en fais peur. Ouais, mais ça fait plaisir.
Mais gros, les lendemains de défaite. À chaque fois. Sauf que j'écoute aussi ceux du PSG en lendemain de défaite, malheureusement. En tout cas, il nous a annoncé qu'il était honnête et franchement, moi, j'étais pas prêt. Hein. D'ailleurs, il a balancé un truc de ouf. Hein. Dans cette édition, nous reviendrons sur les critiques dont a été victime Kylian Mbappé ces derniers temps. Et la star du PSG dézinguée de toutes parts, notamment dans ton émission, Jérôme, comme s'il était le dernier des nuls. C'est-à-dire qu'il veut une petite mauvaise passe, parce que sauf qu'à la mode aujourd'hui, c'est de dézinguer les mecs. Heureusement, il y a un homme qui s'est érigé contre ça. C'est Fred Hermel qui a tenu à remettre l'église au milieu du virage, comme dirait Manu.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les footballeurs et pour les très bons footballeurs. Et j'aime pas enlever du mérite aux footballeurs.
Bravo. Non, mais parce que les mecs critiquaient, et dis-moi, les mecs qui critiquent. Et un florilège maintenant des meilleurs moments de Fred Hermel.
Caca, tu es nul! Caca, tu es nul! Caca, tu es nul! Mais il est con, ce Vinicius ou quoi? Di Maria, t'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Di Maria, tu es nul!
Tout en mesure.
Et c'est important. Ces gens qui respectent les footballeurs, parce que on les critique, mais lui il dit moi j'ai jamais été footballeur donc je les respecte. Après c'est vrai qu'il a, à part si c'est des joueurs nuls, Kaka, Di Maria, Vinicius, enfin tu vois, il sait les choisir. C'est-à-dire qu'il dit pas tu es nul à Del Castillo par exemple, tu vois, ou à Pierre Lesmelou. Il dit ça à des tocards en général.
Ils sont pas nuls, arrête.
Ah oui, il a un supporter.
Vinicius. Del Castillo. Il est pas nul, non. Del Castillo, je te rappelle qu'il a sa place dans n'importe quel club d'Europe.
Oui, hein, on l'a dit, bien sûr.
Jean-Michel nous a dit le Lesmelo aussi.
Et Lesmelo en équipe de France.
Bien sûr, en équipe du Brésil, moi je le mettrais carrément. Pour finir, je voudrais revenir sur le phénomène des noms des footballeurs, tu sais, dans les séries dont on parlait la dernière fois, qu'on retrouve dans les séries. Il y avait aussi un nom d'ancien rugbyman, puisque la série avec Clive Owen avait un personnage qui s'appelait Philippe Saint-André, si vous vous souvenez.
C'est vrai.
On en a parlé forcément à Moscato Show. Il y a un Philippe Saint-André dans une série avec Clive Owen. Sauf que, grâce à Denis Charvet, il y avait aussi une autre star du foot dans la série qu'on n'avait pas vue, nous.
Eh bien, Philippe est à l'affiche de la dernière production Canal+, Mr. Spade ou Monsieur Spade en VO. Oui, oui. Sam Spade, incarné par Clive Owen, un détective privé.
C'est comment il s'appelle, Michael Owen.
Effectivement, Michael Owen qui jouait dans la série. On savait pas, Michael Owen il joue.
Faut pas que je rie.
Michael Owen, c'est pas parce qu'il a joué à Manchester United, qui est un ancien footballeur, qui peut forcément être acteur. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, ne faites pas ça. Pas vendredi, pas avant le week-end. Allez, stop, stop. Allez, coupez, ouais,
on l'embrasse. On l'embrasse.
Ouais.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
À tout à l'heure.
Et on embrasse Denis Charvet, bien sûr.
On embrasse Denis Charvet. Jérôme en lice pour un grand chelem. Rotten contre le reste du monde. Le cadeau, 1h30 de session de padel dans un club fort padel.
Tellement lu la semaine dernière.
32-16, touche 4, au top, 32-16. Jean-Michel,
grand chelem.
Tu es le seul à pouvoir priver Jérôme Rotten d'un grand chelem. Allez,
il
on arrivera
pas 19h45. Tout seul, évidemment.
Et dans un instant, c'est le multiplex de Rotten sans flamme pour lancer la 29e journée de Ligue 1. Tout de suite.
RMC.
Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. La deuxième heure, c'est là, c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Restez bien avec nous, appelez vos amis, on sera encore plus nombreux. La deuxième heure va être excitante, oui, haletante, parce que on lance la 29e journée de championnat de Ligue 1 avec tous nos correspondants et on a hâte de les entendre, bien sûr. Ils nous ont manqué là depuis une semaine. On est avec Benoît Boutron aussi, avec Jean-Michel Larquet, bien sûr. Si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, elle est déjà disponible en podcast, vous pouvez télécharger de podcast, mais attendez la fin de l'émission, attendez 20h parce que là ça va être chaud, Benoît.
Attendez de savoir justement si Jérôme va faire un grand chelem. Ah, il est encore en lice, il a 4 victoires en 4 matchs cette semaine dans Rotten contre le reste du monde. Le cadeau, 1h30 de session de padel dans un club fort padel, 32-16 touche 4, ou envoyez top au 732-16 pour vous inscrire. Événement sur RMC lundi matin, Emmanuel Macron, invité exceptionnel d'RMC et de BFM TV de 8h20 à 9h. Nous serons exactement à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera le 26 juillet. RMC est la radio officielle. Le président de la République va venir répondre aux questions d'Apolline de Malherbe, de David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Si vous avez des questions à poser au président de la République, vous pouvez les adresser à l'adresse mail suivante. Vos questions à rmc.fr et également composer le 32-16. On parle de Jeux Olympiques. Il y a également de magnifiques cadeaux à gagner.
Ah
puisque
oui, là, c'est beau, là.
À J-100 des Jeux Olympiques, on vous offre encore 100 places sur RMC pour les JO.
Fantastique.
Les meilleures places possibles. La cérémonie d'ouverture,
la
finale du 100 mètres, le judo, le tennis de table. Il y a plein de places magnifiques. Des cadeaux d'une valeur inestimable. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez Paris 2024 au 732-16. L'un d'entre vous sera avec nous à 19h30.
On va le recevoir avec grand plaisir.
Et aura un choix à effectuer entre deux sortes de places.
Bah oui, voilà.
Il y aura deux possibilités. Bah, tu verras, on garde le suspense. Et tu verras, il y aura un choix à effectuer pour celui ou celle qui aura la chance de participer avec nous. Un point sur le direct, le Masters 1000 de Monaco, de Monte Carlo plutôt,
oui.
Le quart de finale, le dernier quart de finale avec un joueur français avec sa lieu, c'est Hugo Humbert.
Ouais, Hugo Humbert qui passe une première demi-heure difficile face à Casper Ruud parce que le Norvégien il frappe très très fort et pour l'instant c'est vrai que j'ai
eu
4 jeux à deux.
Je pue le tennis
pour le Norvégien, deux fois finaliste à Roland et qui est en train de muscler son jeu puisqu'il a décidé de frapper encore plus fort en coup droit. Et c'est vrai que là, ça fait des trous dans les défenses d'Hugo Humbert. Je rappelle que le gagnant de ce match affrontera demain Novak Djokovic, qui a battu demi heure 7-5, 6-4.
Merci. Bon, on te rappelle dans 20 minutes, c'est fini.
Et l'autre demi, ça sera Tsitsipas, Sinner.
25.
Allez, la tradition du vendredi, c'est le multi.
RMC, Rotten sans flamme.
Il faut pas frapper, Rotten. Ne frappe pas. Il frappe quand même. Et Bilou. Oui, t'as dit Jérôme Rotten.
Lui, je lui ai fait sa carrière. Hein.
Ouais. Oh, lui aussi, il a fait la tienne.
Non.
Avec ce but.
Ouais,
bah, on le diffuse. Ouais. Hey, tu pourrais lui payer des droits.
Quand je suis arrivé à Bastia, personne ne le connaissait. Maintenant, il se fait offrir des. Qui ?
Il est rassé.
Bah oui.
Oui, bien sûr. On lance la 29e journée de Ligue 1 avec nos correspondants. Sont présents Édouard G à Lyon. Salut Édouard.
Salut Benoît, salut Jean-Michel.
Salut Édouard. Oh,
t'as pas fait ta carrière avec mes buts. Hein.
Non. Quoi ? Ah bah non, toi, tu étais triste comme tout quand je marquais à Gérald. Je comprends pas.
C'est sûr.
Je comprends pas.
Julien Landry.
Normalement tu dois être objectif, journaliste.
Tiens, un comeback. Julien Landry qui est là.
Cherchez
Landry.
Bonsoir.
Salut Julien.
Comment il va?
Ça va bien, Julien.
Bon. Ah, il est venu prendre le soleil à Paris, Julien.
Exactement. Il était là en début de semaine. On embrasse Jean Baumel qui devait être avec nous, qui est dans le train. Il y a eu du retard. Il est de retour de Birmingham parce qu'on le rappelle, il était en Ligue Europa Conférence en quart de finale.
Il a mangé trois hamburgers. On m'a dit qu'il a tué les hamburgers là-bas à Birmingham.
Je vous donne juste nos débats. À 19h15, est-ce que Lacazette est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement? À 19h30, le LOSC, est-ce la plus grande chance française en Coupe d'Europe désormais? Puis à 19h35, Clermont-Montpellier. Le match aller a-t-il vraiment plombé la saison des Montpelliérains? Mais on lance, messieurs, cette 29e journée avec nos correspondants. Donc, elle est amputée de trois matchs, on le rappelle. Lorient-PSG, Monaco-Lille, Marseille-Nice. Trois rencontres reportées pour soulager nos clubs français entre l'aller et le retour de leur quart de finale respectif de Coupe d'Europe. Trois matchs qui se joueront le mercredi 24 avril. C'est une spécificité française. Les adversaires de nos clubs de Ligue 1 seront sur le pont ce week-end, que ce soit Benfica, que ce soit le Barça ou également Aston Villa. On rappelle que cette décision a été prise par le conseil d'administration de la Ligue, car je cite, le parcours des clubs français en Coupe d'Europe est une priorité absolue. Problème, la Ligue 1 est extrêmement serrée, que ce soit pour la course aux places européennes ou dans la lutte pour le maintien. Alors le report des matchs fausse-t-il le championnat? Avant d'entendre Jean-Michel et Jérôme sur le sujet, quel est le sentiment global sur cette question à Lyon, Edouard?
Eh bien, Pierre Sage a juste fait une phrase avec un « oui, on comprend qu'on protège les Européens », mais il y a eu un long « mais » derrière. Je cite, ça biaise un peu le championnat parce que j'imagine que les adversaires, et ils pensent notamment à Lorient qui est barragiste, qui aujourd'hui est le premier relégable, donc qui ne joue pas ce week-end, eh bien Lorient va devoir jouer un match en semaine et en rejouer un le week-end. Ça leur crée pas les meilleures conditions pour se maintenir en termes de fatigue, dit le coach de l'OL. Alors, il dit que lui n'est pas vindicatif parce qu'il n'est pas dans cette situation-là de barragiste, mais peut-être que s'il avait été dans cette position, il aurait peut-être eu un discours un peu plus franc, on va dire, plus direct et moins « oui, mais ».
Qu'est-ce qu'on en pense à Montpellier, Julien André, alors?
Alors, il y a deux cas précis pour Michel Derzakarian. Il y avait déjà l'affaire du fait que Paris ait fait tourner contre Clermont et où Clermont ait pris un point, ce qui n'a pas forcément plu à Michel Derzakarian parce que Clermont reste malgré tout un adversaire direct pour les Montpelliérains. Et puis, il y a donc ce cas du report des matchs ce week-end, tu en as parlé. Une situation que ne comprend pas du tout le coach du MHSC.
Ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi, c'est en Angleterre, ils jouent les mecs. Hein. Dans tous les autres pays, hein. Ils rejouent tous les trois jours les mecs. Je pense pas que ça fausse le championnat parce que quoi qu'il arrive, en 15 jours, ils vont rejouer en semaine. Hein.
Tiens, puis un homme qui est directement concerné par la lutte pour le maintien, c'est Antoine Comboiré. Un Nantes est 15e et premier non relégable. Écoutez la position d'Antoine Comboiré sur le report de ces matchs.
Non mais je comprends, hein. Je comprends qu'aujourd'hui les clubs qui jouent le maintien sont pas contents du tout. Mais après c'est très compliqué parce que donc la Ligue aujourd'hui veut protéger donc les clubs qui font les coupes d'Europe. Et puis mais en même temps il faut pas affaiblir donc ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Mais moi je trouve qu'il faut que la Ligue surtout défonce son championnat. Et la Ligue faut qu'il fasse attention. Parce qu'en jouant à ce jeu-là, comment on fait en fin de saison? La Coupe d'Europe, ça vient après. Hein. Même si nous, on veut tous que vous, moi, vous imaginez, moi, je suis supporter du PSG, donc j'aimerais voir le PSG gagner la Ligue des Champions. J'aimerais voir Marseille gagner la Ligue Europa, bien sûr. Moi, je défends mes clubs français hein, sur la Coupe d'Europe, sur la scène européenne, mais d'abord la Ligue. Hein.
Alors, est-ce que le report de ces matchs fausse le championnat, Jérôme Bretagne?
On n'est pas habitué à ça, donc automatiquement j'ai été surpris. Je suis à peu près sur la même lignée que Antoine Comboiré. On est tous à fond les clubs français en Coupe d'Europe, bien sûr qu'on a envie que des clubs aillent loin, nous fassent vibrer, nous fassent les émissions, l'adrénaline à son max, même nous parce qu'on reste passionnés et supporter numéro un du football français. Mais après, il y a un championnat, ça a toujours existé. On est aussi passé par là. Moi, je suis désolé, mais nous, il n'y avait pas d'arrangement quand j'étais à Monaco et qu'on a été en finale de la Ligue des Champions. Alors pourquoi aujourd'hui, tu as des arrangements? Parce que les matchs sont plus longs, parce que les matchs sont plus intenses.
Parce que tu veux te donner
un maximum
de chance.
Matchs. Non, il n'y a pas plus de matchs, rassurez-vous. Il y en avait même plus à l'époque parce qu'il y avait la Coupe de la Ligue. Donc, il y avait 20 clubs au lieu de 18. Donc je suis désolé.
Il y avait des prolongations quand c'était la Coupe de France.
En plus, donc quand t'as réduit déjà à 18, comment tu peux comprendre quand t'es un club qui joue le maintien? En effet, ça peut te perturber. De pas jouer pendant 15 jours, c'est perturbant pour des clubs qui sont habitués à jouer toutes
les
semaines.
Surtout si tu vois des concurrents directs prendre des points.
Non mais oui, parce que là où t'as raison, c'est que même sans prendre de points, je veux dire, on est tous passés par des matchs remis. Alors c'est pas des journées entières, mais des matchs remis pour cause de mauvais temps ou stade fermé pour autre chose ou quoi que ce soit, et le match est reporté 15 jours, 3 semaines après. Mais en fait, c'est une catastrophe dans le calendrier, parce que même toi, quand t'es joueur, tu te dis « Ah, bah là, il y a 3 points. Ah ouais, si on reprend 3 points au classement, on va repasser devant. » Ah, puis en gros, déjà, les 3 points qu'il y a en jeu, tu les as plus ou moins comptés. Psychologiquement, c'est important. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre.
Si, bien sûr.
Mais je suis désolé, quand tu joues le maintien et que tous les matchs sont importants, je peux comprendre que ça perturbe. Donc, je suis désolé. Et puis, encore une fois, et là, c'est Michel Derzakarian qui dit ça. Il a raison. Les autres pays y jouent. Alors, pourquoi nous, on a décidé de pas jouer? Puis, en plus, ça nous a bien rendu service, parce qu'à l'arrivée, on a fait 3 défaites.
Oui, enfin, c'est là que ça compte. Ouais, c'est là qu'ils ne jouent pas.
Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Ça aurait été problématique. Encore une fois.
Tu sais, les cas sont différents.
Cette réflexion-là, on l'a eu. J'ai entendu les dirigeants parisiens qui m'ont appelé hier. Je l'ai dit déjà en me disant mais regarde, nous on a un autre avantage. C'est pour ça qu'on est optimiste. C'est que nous on joue pas ce week-end, alors que Barcelone y joue. Mais je dis vous nous prenez pour des cons. En fait, vous croyez que Barcelone va faire le match de sa vie à Cadix alors qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu le titre? Tu crois qu'ils vont?
Par contre, Cadix va faire le match de sa vie.
Voilà. Ouais. Et par contre, et pour renverser le truc, parce que c'est très facile de nous dire, nous on a une semaine pour se préparer, c'est génial. Mais tu crois que quand t'es un compétiteur, que t'as fait un match merdique et non, que t'as déçu mercredi soir, tu crois que t'as pas envie de rejouer assez vite pour effacer cette contre-perf plutôt que d'attendre une semaine? Ben je peux te dire que oui. Moi, les joueurs, ils auraient préféré jouer ce week-end. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une anomalie et que je ne comprends pas ce report de ces 3 matchs.
Jean-Mi, est-ce que le championnat est faussé?
Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un paradoxe qui va bien à la Ligue de football professionnel. Je crois que les 2 dernières journées se jouent le même jour à la même heure pour des raisons d'équité. D'accord?
Oui.
Bon. Et pourquoi les autres journées se joueraient pas à quelques différences près, mais dans la même période, dans le même week-end? Et là, effectivement, il y a des clubs qui vont être lésés, parce que c'est il y a des reports qui ne s'imposent pas. Et puis quand on joue la Coupe d'Europe, que je sache, quand on joue la Coupe d'Europe, on sait qu'éventuellement, en fin de parcours, si on a la chance d'être en quart de finale de Coupe d'Europe, on sait qu'on va jouer tous les 3 jours. C'est la règle.
Ben oui.
C'est la règle. Donc, je ne comprends absolument pas cette décision. C'est, je ne sais pas si c'est électoraliste, si c'est du clientélisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est encore une spécificité française qui, poussée à l'absurde, permettrait à des équipes de jouer leur match, de finir le championnat au mois de juillet. Pourquoi on considère que c'est plus important en quart de finale que dans les poules? J'en sais rien. Mais quand il y a une règle que l'on connaît, que tout le monde connaît, au début du championnat, on s'en tient à la règle, point final.
Mais oui. Et encore une fois, Jean-Michel, pour aller dans ton sens, c'est ce qu'on dit et que je peux comprendre le mécontentement des entraîneurs, je suis désolé, pour un événement, quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire une finale de Coupe d'Europe, qui est des arrangements. Nous, ça avait été le cas à Monaco. Vous savez que les 2 dernières journées, elles se jouent, elles se jouent le même jour.
Multiplex. Ouais.
Bah, nous, pour gagner une journée de repos, on avait joué le vendredi soir au lieu de jouer le samedi soir. Mais, c'était à Bordeaux. Mais tu pouvais le comprendre. Ce que je veux dire, c'était pas aller contre l'intérêt du championnat ou contre les trucs.
En fait, là où je vous suis pas, c'est que ça fait des années qu'on se plaint, qu'on dit que les clubs français considèrent pas assez la Coupe d'Europe. Mais cette année, on en a 3 en quart de finale. On a raison de maximiser les chances.
Benoît, ils sont tellement nuls qu'il y a quelques années, me semble-t-il, il y avait des journées de championnat qui étaient prévues au moment où il y avait des matchs de Coupe
d'Europe. Exactement.
C'est arrivé, ouais.
Ou des finales de Coupe de France qui se jouaient les finales de le même jour que les finales de Coupe d'Europe.
Arrête d'essayer de défendre.
Ça, c'était pas l'optimisme, ça.
Non. Comment ?
Non, parce que Jérôme dit il y avait des finales de Coupe de France le même jour que des finales de Coupe d'Europe.
Ouais, ou le même week-end, tu vois. Non, mais là,
rien ne justifie ces reports. Et c'est vrai qu'il y a des matchs importants. Il y a un Lorient, Paris Saint-Germain. C'est important pour Lorient et pour les adversaires directs de Lorient. Il y a un Monaco-Lille qui est important et pour l'un et pour l'autre et pour les adversaires de en l'occurrence, déjà Monaco-Lille sont intéressés tous les deux par la Ligue des Champions. Et il y en a d'autres qui sont intéressés par ce match-là. Il y a trop.
Oui, moi, et puis encore une fois, Jean-Michel, si tu veux faire passer ce règlement-là, allez, et ben fais voter les acteurs.
C'est le cas, Jérôme. Non. Le conseil d'administration de la Ligue, ce sont les présidents de Ligue 1 qui votent à l'unanimité.
Mais ça n'a pas été à l'unanimité, ça.
Bah si, c'est ça. Bah,
la preuve, ils sont tous en train de gueuler, les entraîneurs et tout ça.
Il y a un vote et la majorité l'emporte. C'est-à-dire que tu fais voter les présidents et ce sont eux qui choisissent de remporter.
Alors moi, j'aimerais bien voir le vote et qui y avait, s'il y avait eu tout le monde.
Mais c'est propre. Mais Benoît, je t'arrête. On fait voter quelque chose qui ne doit jamais être mis au vote.
Voilà.
Oh, parce que le calendrier, il est fixé, les règles du jeu pour la Coupe d'Europe sont fixées, et tu changes les règles du jeu en cours de
compétition. Après, bientôt, je vous annonce, la Coupe de France, ça va être 2x30 minutes. Deux fois 30 minutes parce que il y a plus de prolongation, il y a plus deux fois 30, on a déjà viré la Coupe de la Ligue. Donc qu'est-ce qu'on pourrait virer en faire un top 14 comme au rugby. Allez hop, on revient 4 équipes. Normalement bon. là ça devrait aller avec 26 matchs, non?
Dans un instant, on poursuit le débat lunch multiplex. Edouard G est là, Julien Landry aussi. On va parler de Lyon justement. C'est le match sexy du week-end, ce Lyon-Brest dimanche soir à 20h45.
C'est l'affiche.
L'affiche.
Deux énormes clubs l'un face à l'autre.
Là pour une fois, je suis d'accord avec toi Jean-Michel, c'est l'affiche.
Bien sûr que c'est l'affiche. Edouard, ça fait plaisir de savoir que tu as l'affiche de Ligue 1 dimanche soir. Et cette question qu'on va se poser, est-ce qu'Alexandre Lacazette c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement? À tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h19 sur RMC, on est là toujours dans notre multiplex Ligue 1. Oui, on lance cette 29e journée de championnat de Ligue 1. On s'éclate avec nos correspondants. Ah, pas beaucoup, il en manque un pour l'instant.
Ouais. Gigo, il est dans le train. Il rentre de Birmingham.
Écoute, Birmingham, la ville de Christophe Dugarry.
Ah oui, là où il a brillé.
J'aimerais bien lui poser la question s'il a vu la street Dugarry.
La Dugarry Street.
On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet aussi, bien sûr. Julien Landry,
Edouard G. Justement, on parle de Lyon. L'affiche la plus sexy du week-end, Lyon-Brest, dimanche soir, 20h45. Le 10e face au 2e. Deux équipes qui ont pris 10 points sur les 5 dernières journées. Lyon qui s'appuie sur Alexandre Lacazette. Le général, 3e meilleur buteur de Ligue 1, 14 buts derrière Mbappé et Jonathan David. Alors Edouard, cette semaine...
Ne déçois pas Edouard, parce que j'ai fait une Luis Enrique aujourd'hui. J'ai pris Julien et toi. Donc personne s'y attendait.
Edouard, il a bossé. Donc allez-y. Il s'est dit, je vais aller à la rencontre de joueurs qui ont connu la Cazette.
Sinon, je vous sors à la mi-temps.
Dès le départ, t'es parti, Edouard, à la rencontre d'Enzo Real, partenaire de formation de la Cazette pendant 10 ans. Et comme tout le monde, d'ailleurs, il est bluffé par les performances actuelles de son pote.
Oui, et quand on lui parle, Enzo Real, tout de suite, il revient à un mot de confiance. Confiance donnée par le staff de Pierre Sage, qui lui permet d'empiler les buts actuellement. Sur les 12 dernières titularisations, c'est 11 réalisations pour Alexandre Lacazette. Et du coup, quand on parle de confiance, on va faire ressurgir Jérôme Hanon, celui de Fabio Grosso, l'éphémère coach de l'automne. On se souvient de la mise sur le banc à Rennes d'Alexandre Lacazette, assorti à la mi-temps une semaine plus tard face à Lille. En gros, Pierre Sage... et fait tout ce que le technicien italien n'a pas fait, Enzo Real.
Il faut lui donner toute sa confiance. Il faut pas laisser le moindre doute, parce que si tu lui montres que t'as pas confiance en lui, eh ben tu peux rien tirer de lui, parce que malgré tout il a son petit caractère de cochon. Vaut mieux s'appuyer sur lui et lui montrer qu'on a confiance en lui. Et là par contre, tu peux aller à la guerre avec lui.
Voilà, aller à la guerre, et donc il surprend tout le monde, tous ses proches, donc Enzo Real. Les deux se découvrent dès l'âge de 9 ans, quand l'un arrive du 8e arrondissement, l'autre de Vénissieux, donc quand il rentre au centre de formation. Alors pour dessiner les progrès de la Cazette, Enzo Real a cette formule: désormais, d'une miette, il te fait un festin. Mais qu'est-ce que cela veut dire?
Par exemple, un cafouillage dans la surface, il est capable de le transformer en but. Il est capable de marquer en taclant aussi. Et avant, c'était plus des courses en profondeur, c'était plus des buts en dehors de la surface. Et aujourd'hui, c'est devenu, en plus d'être ça, un joueur de surface et un renard. Il n'avait pas forcément ça quand il était plus jeune.
Et désormais, la question, l'équipe de France dans tout cela, dont le lien est plus que contrarié. Hein. 16 sélections, dont la dernière en Allemagne, le 14 novembre 2017, qui se solde par son meilleur match et un doublé de partout au final. Et puis donc, depuis, plus rien. Enzo Real, à ce propos, le joueur de Gol FC, eh bien, il est cash.
Pour moi, il a sa place largement. Dans le profil qu'il est, en tant que joueur dos au jeu, en tant qu'appui, oui, il a sa place. Il irait très bien avec les profils de profondeur et lui en point d'appui. Je pense qu'il aurait au moins sa chance de pouvoir participer et de montrer qu'il a sa place. Avec Mbappé, ben, il peut combiner, il peut tout faire. Il peut permuter avec les Dembélé, les Mbappé, ouais, sans aucun souci. Ouais.
Voilà, Enzo Real, donc, lui qui plaide directement pour une place en équipe de France, et il est cash.
Question simple, Jean-Michel, Jérôme, est-ce que Lacazette, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement?
Je ne sais pas si c'est le meilleur joueur de Ligue 1.
Il n'en est pas loin.
Non, mais très clairement, cette question-là, elle est compliquée quant à Kylian Mbappé dans notre championnat.
Bah, c'est pour ça qu'on dit actuellement. Parce qu'actuellement, Kylian Mbappé est un peu en difficulté.
Ça veut dire quoi actuellement?
Ça veut dire depuis un mois.
Il y a deux semaines de ça, il te mettait un triplé à Montpellier, Kylian Mbappé. Ouais,
tout le monde gagne contre Montpellier, je crois.
Il a battu Rennes à lui tout seul. Ce que je veux dire, c'est que pour parler de Lacazette, je veux pas minimiser ses performances. Au contraire, je suis le premier à militer pour qu'il revienne.
Mais oui, tu en as parlé la semaine dernière.
Même si Monsieur Larquet, qui était très proche de Didier Deschamps depuis qu'il l'a critiqué un peu moins, nous a dit tu sais que c'est pas possible. Là, ouais, d'accord. N'empêche que les performances d'Alexandre Lacazette,
c'était très mauvais.
Oui, c'est vrai, c'est pas grave. Alexandre Lacazette,
je me suis même pas reconnu. Tu vois,
c'était... Bah non, je l'ai pas fait avec l'accent parce que. Mais n'empêche que ce mec-là, depuis qu'il est revenu à Lyon, on peut dire son âge, tout ce que tu veux, on peut dire qu'il n'a pas les meilleurs joueurs autour de lui, c'est moins qu'on puisse dire. Le compteur, il tourne tout le temps, il est décisif, il s'accroche.
C'est beau, c'est d'avoir porté son club, même.
Moi, je trouve qu'il est hyper efficace, contrairement à une époque où il avait peut-être besoin d'un peu plus d'occasion, mais là, il est impressionnant de ce côté-là, sa régularité. Donc, moi, je dis bravo, parce que franchement, quand tu reviens à Lyon, comme ça, par la petite porte, hein, parce que quand il est parti de Lyon, je suis pas sûr que dans sa tête, après Arsenal, c'était de revenir à Lyon. Il est revenu à Lyon, il a l'humilité de se remettre au boulot, de vivre des années galères, et surtout cette année, trois entraîneurs, ouais, et de garder toujours en tête la performance, alors qu'il a subi des choses avec Grosso. Et vous le savez, c'est sorti dernièrement encore, que c'est compliqué quand t'es un joueur d'expérience comme lui, et de talent. Donc bravo pour ce qu'il fait. Je pense très honnêtement qu'il mériterait de nouveau de retrouver la sélection.
Jean-Michel, est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 en ce moment?
Alors, je sais pas, parce que c'est subjectif, le meilleur, c'est compliqué.
Qui est meilleur? C'était meilleur? Pas tes meilleurs?
C'est Unai Emery, j'ai reconnu.
Je sais pas. C'est mauvais comme imitation.
C'est quoi? Ça m'avait manqué.
Tu t'en remets pas, capitaine.
Ah, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ah, ça m'avait manqué.
Ah, voilà. C'était.
Arrêtez sa meilleure imitation. Arrêtez.
Franchement, elle était bonne, celle-là. Ah
ouais, celle-là était bonne. Celle-là était bonne.
Julien, t'es pas prêt de revenir.
Ah ouais, ouais.
Ah ben, c'est pas grave. Je vais rien rater.
Ouais.
Non, mais c'est Ali Lozic, tu fais pas mal.
Ali Lozic, c'est vrai.
Mais je le ferai pas ce soir.
Ah, tout va bien. Tu me feras un petit kiff tout à l'heure.
Ça aurait un peu remonté la note, mais pas terrible.
Non,
je sais pas si c'est le meilleur. En tout cas, ces dernières semaines, c'est le joueur le plus décisif du championnat. Ça, c'est clair, c'est net. Et pour revenir plus exactement sur une éventuelle sélection, un éventuel rappel en équipe de France, j'ai pas dit qu'il ne le méritait pas, Jérôme. J'ai dit que ça ne se ferait jamais. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, il y a un Noël avec Lacazette, un Noël sans Lacazette, et il est évident que ce garçon-là, ces dernières semaines, a mis les buts qu'il fallait au moment où il fallait. Et il a retrouvé. Je savais pas que c'était. Voilà, tu vois, le sonore de Doudou nous a éclairé, parce que je savais pas que c'était un garçon qui était sensible comme ça et qui avait besoin d'autant de
confiance
en lui pour s'exprimer. Comme quoi, On découvre les hommes à travers les autres d'ailleurs et les jugements des autres. Mais la Lacazette aujourd'hui, c'est évidemment, il serait titulaire. Si le Paris Saint-Germain avait la Lacazette comme avant-centre, ah, peut-être qu'il ne jouerait pas avant-centre finalement.
Ouais, méfie-toi.
Il joue là, pas avec un avant-centre.
Là, je me méfie. J'allais dire une bêtise. Voilà.
Ouais.
Bon, eh ben en tout cas, voilà pour Alexandre Lacazette. C'est l'affiche du week-end, cette 29e journée, soir à 20h40.
Se régaler.
Lyon-Brest.
Non, dimanche soir.
Dimanche soir. Et ce soir, c'est Metz-Lens. Excusez-moi.
Bon,
19h27, on poursuit le multiplex dans un instant. On remercie Edouard qui doit nous quitter. On va rester avec Julien Landry qui va rester avec nous.
Merci Edouard.
Jusqu'à 19h40.
Ciao.
On parle
de Saint-Etienne. Alors, il part pas Saint-Etienne.
Ah non. Saint-Etienne, il y a le derby. Attention, il y a le derby. Le derby, mais féminin. Version féminin.
Là, Edouard va se rapprocher de Saint-Etienne parce qu'ils vont peut-être monter.
C'est vrai, on leur souhaite. Voilà. Et oui, les Verts sont de retour bientôt.
Ah, c'est incroyable. Ce serait beau.
Allez, merci Edouard. Bonne soirée. Allez, ciao. Et on reste avec Julien dans un instant.
On embrasse Lille, Bernard Cayazo.
Qui a été bon en Coupe d'Europe hier et de Montpellier. Reste avec nous.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. Dernière demi-heure de Roten sans flamme de la semaine. Et oui, mais vous inquiétez pas. Après le week-end, on sera de retour à partir de lundi. Une grande semaine encore qui s'annonce. Et oui, encore de nouveau une semaine Ligue des Champions, une semaine Coupe d'Europe. Oui, ça va être génial. Ça va être génial, mais la dernière demeure va être intense aussi. On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet. Dans 15 minutes, le quiz de Julien Cazard en route pour un grand chelem. Et, oui. Et on est toujours, bien sûr, avec Julien Landry.
Avec des directs. Julien Landry est là, c'est le dernier des Mohicans. On a des directs, à commencer par le tennis et le dernier quart de finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Hugo Humbert qui affronte Casper Ruud et Eric Salio.
Ça va mieux depuis 5-6 minutes pour Hugo Humbert qui était vraiment en grosse difficulté. Mené 6-3, break d'entrée de deuxième manche. Et là, à l'instant, il vient de débreaker. Et il a 3 balles pour faire 3-2 sur le service de Casper Ruud qui commence à faire quelques fautes. Alléluia, parce que jusqu'alors, il était intouchable, le Norvégien. Donc, ouais. 6-3, Ruud et 2 partout dans le deuxième.
Autre direct, ça fait rêver tous les fans de foot. Une finale de Coupe d'Europe 100% française. C'est du basket, c'est de l'Eurocup. Et cette finale oppose Bourg-en-Bresse au Paris Basket. C'est le match 2. Salut Arnaud Valadon.
Salut les amis, Arnaud. Bienvenue à Equinox. 3500 personnes, ambiance de folie. Mardi, Paris avait remporté le premier match face à Bourg-en-Bresse dans la capitale. Et ce soir, si les Parisiens s'imposent, ils remporteront l'Eurocup. C'est l'équivalent de l'Europa League. Et comme en foot, il y a un ticket pour la plus prestigieuse compétition européenne, c'est-à-dire l'Euroleague en basket à aller chercher. Mais si Bourg gagne, il y aura une belle à jouer à Paris lundi. C'est parti depuis 1 minute 30. Vous entendez l'ambiance incroyable derrière. Paris qui mène d'un petit point, 3-2.
Merci Arnaud. Allez, merci. Justement, parlons de Coupe d'Europe.
Stephen Time.
Dans un instant. Stephen Time demain, 19h-20h30. Oui, c'est l'émission de référence au samedi soir.
Oui, de basket.
Ah, là, c'est quelque chose.
Émission de référence de basket.
Omnisport.
Omnisport.
Ah, ouais, tous les sports.
Non, quand même pas.
Dans un instant, on va parler de Montpellier.
Stephen, quand même.
Ah, si. Il parle très bien de football, d'ailleurs. Méfie-toi.
Ouais, j'ai parlé une fois avec lui, c'est pour ça que je dis ça.
On parle de Montpellier dans 5 minutes. Je voulais juste laver de Captain Larquet. Jérôme nous a donné le sien en première heure, mais on voulait revenir sur le match de Lille hier. C'était un moment d'histoire pour les Lillois, premier quart de finale de Coupe d'Europe. La Conference League, c'était sur la pelouse d'Aston Villa, une défaite 2-1. Ça laisse de l'espoir en vue du match retour. Jean-Michel, qu'est-ce que tu as pensé de la performance lilloise et surtout, est-ce que désormais tu te dis que c'est Lille la meilleure chance française en Coupe d'Europe sur cette fin de saison?
Ben oui, j'ai devancé ta question. Oui, bien évidemment, parce qu'ils ont fait, d'abord hier, ils font un match cohérent. Ouais. Voilà, déjà, ça ressemble à un vrai match de Coupe d'Europe avec une équipe qui, contrairement à d'autres, et je ne citerai personne, on sent quand même qu'il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et là, je rejoins un peu Jérôme aussi. C'est pas facile d'aller faire un quart de finale dans un club anglais. Tu te fais bouger.
Cinquième de première ligue, ouais.
Et ils sont en route pour. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait un championnat de cette valeur. Moi, je les ai trouvés très cohérents. Et eux, effectivement, je ne dis pas que ce sera simple pour se taper les Villains. Mais je pense qu'ils ont une réelle chance. Mmh. Ouais, hier, j'ai trouvé ce match très cohérent. Mmh. Ouais, je peux pas en dire davantage parce que c'est des matchs qui sont difficiles, qui sont âpre. Et les Lillois, ils ont franchi un pas quand même. Hein. On sent, c'est une équipe qui aujourd'hui a énormément de maturité. D'ailleurs, leur parcours en championnat depuis deux mois est, je pense, l'un des plus remarquables.
Ah
je
oui, sais pas c'est si... l'une des équipes les plus en forme, ouais. Ça c'est sûr.
Et il prend des décisions. Par exemple, quand on voit que Cabella est sur le banc au départ de la rencontre, on se dit que finalement...
Oui, il y a de la profondeur dans l'effectif, t'as raison.
Et c'est un joueur qui serait titulaire pratiquement partout. Mmh. Aujourd'hui, j'ai cette équipe de Lille est en gros progrès. Maintenant, Jérôme, est-ce que si Lille se qualifie pour la grande, là on parle plus de la Ligue Europa, pour la grande Ligue des Champions l'année prochaine, l'équipe sera meilleure ou sera amoindrie?
Olivier Létang, qui est venu la semaine dernière dans l'émission,
Va pas te dire le contraire.
Après il a le droit de dire aussi des choses vraies, et j'espère qu'il nous a pas menti. Maintenant, oui, on peut être sceptique parce qu'il y a des joueurs qui vont être convoités, qui sont très courtisés, ça te fait une grande partie du budget aussi si tu les vends très bien. Et aujourd'hui on connaît le montant de certains joueurs, c'est difficile pour un club français de dire non. Et puis même pour le jeune joueur qui est Yoro ou Zegrova par exemple, parce que ces joueurs-là vont être courtisés forcément. Mais pour revenir sur le match d'hier, moi, où je suis assez d'accord avec toi Jean-Michel, c'est que je pensais que Lille pouvait les inquiéter, parce que Lille c'est une très belle équipe, collectivement il y a un coach qui est sûr de ses idées et ça se voit, il y a une sérénité dans ce club de toute façon, et des joueurs qui ont faim, des joueurs qui c'est des chiens, et ça correspondait exactement au contexte d'hier, parce que contre les clubs anglais, surtout là-bas, tu sais que tu vas te faire rentrer dans le chou, tu sais qu'ils vont venir te presser, tu sais que ça va être difficile,
si tu joues sur la pointe des pieds,
t'es mort, t'exploses. Et tout de suite j'étais rassuré. Alors ils étaient menés 2-0 limite contre le cours du jeu, parce que à l'arrivée ils ont eu plein d'occasions, et heureusement qu'ils reviennent à la fin.
C'est possible.
Bien sûr, ouais. Sur ce qu'on a vu hier. En plus, attention, le contexte maintenant, ils vont le retourner, parce que le stade à Lille, il est plein, ouais, il va être plein, ça va être très chaud. Les Anglais, alors ils connaissent les ambiances chaudes, il n'y a pas de souci. Sauf que là, à mon avis, vu que les Anglais ils nous prennent un petit peu de haut à chaque fois, ils ont dû s'en prendre une bonne sur la prestation des Lillois hier. Ils se sont dit, waouh, en fait, c'est pas si facile ça. Et que là, ils vont se méfier d'autant plus, mais les Lillois ont vraiment les ingrédients, les arguments pour les inquiéter. On parlait de créativité dans le jeu qui est inexistante à Marseille. Je suis désolé, là des bons joueurs de ballon, il y en a.
Alors on parlait tout à l'heure des reports de match. Ils vont pas à Arsenal, je crois.
Aston Villa, oui. Le week-end prochain, oui. Première Ligue.
Et comme ils sont en course.
En course pour la Ligue des Champions, oui.
Pour la Ligue des Champions, là, ils vont pas faire retourner.
Non.
C'est un élément à prendre en considération.
Tu as raison.
C'est
vrai. Bravo Jean-Michel. Et puis terminons notre multiplex Ligue 1 à Montpellier. Dimanche, 15h, Montpellier se déplace.
À l'affiche, la deuxième affiche.
Montpellier est 13e. Non, mais pourquoi on encore OK Julien Landry, parce que c'est le moment de le faire. On le fait rarement, mais c'est un match particulier pour les Montpellierens.
En plus,
déjà on l'aime beaucoup, et surtout on voulait le faire venir pour cette affiche.
Rire.
En plus, je rappelle le contexte du match aller, le 8 octobre, c'était le match aller, donc jet de pétard sur Moridio, le gardien clermontois, dans le temps additionnel. Montpellier mène 4-2, résultat 1 point de retrait, match rejoué à huis clos qui va se terminer sur un nul, 1 partout. On dit même au club que c'est le match qui a fait mal tourner la saison Montpellier-Rennes, le match bascule. Julien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse motivation pour les Montpellierens et surtout pour leurs supporters dimanche.
Ouais, c'est vrai que depuis des semaines, et Michel Derzakarian, je pense que chaque semaine, il est toujours revenu sur ce match en ne voulant pas nier le fait que Montpellier l'avait gagné. Je me rappelle qu'une fois, on lui avait posé la question sur le nombre peu reluisant de victoires de Montpellier à domicile, qui s'est imposé que contre Toulouse, et il n'arrêtait pas de répéter. Non, mais vous oubliez clairement, on a gagné 2 fois cette saison, donc c'est un match qui compte pour Michel Derzakarian. Laurent Nicolin lui-même l'avait déclaré, il avait dit, si on gagne le soir de Clermont, on est 6e au classement, mais un débile abruti nous fait basculer la saison, j'entends ce pétard. Et c'est vrai que depuis ce match-là, la saison de Montpellier a basculé en jouant le maintien avec plein d'incidents, les blessures de Nordin, les blessures de Tamari. Et c'est vrai que pour le symbole, Montpellier pourrait quasiment avoir assuré son maintien dimanche après-midi en cas de succès à Clermont. S'imposer à Clermont dans cette saison-là, évidemment, ça marquerait. Arnaud Nordin en a parlé cette semaine en disant qu'il savait qu'il y avait l'importance. Et la preuve de l'importance, c'est que dimanche après-midi, on attend quasiment près de 1000 Montpelliérains du côté de Clermont. Et il faut remonter, Jérôme, à mai 2012, au match de Montpellier du côté d'Auxerre pour voir un aussi gros parcage Montpellierin à l'extérieur.
Ah ouais, c'est le match du titre.
Ouais, match du titre, exactement. Preuve que les Montpellierins ont ciblé ce match-là en disant que voilà, il est important. Alors, pour l'histoire du club, l'histoire de se maintenir, parce qu'on rappelle qu'au mois de novembre, Montpellier fêtera ses 50 ans et que Montpellier a évidemment envie d'être en Ligue 1. Mais que oui, c'est un match qui compte, même si Michel Darzacarien a dédramatisé ce matin en disant que c'était juste un match où il fallait prendre des points. Mais oui, clairement, ce match est ciblé par les joueurs, par les supporters, pour aller clore la saison du côté de Clermont dimanche après-midi.
Alors, que ce soit une péripétie, oui, mais est-ce que c'est pas un peu facile de se dire, bah, c'est ce qui a fait basculer notre saison, bien sûr
que ça a fait basculer les matchs qui ont suivi c'est un broglio là de matchs remis gagnés points perdus
tu parlais justement Jérôme tout à l'heure des points que tu pensais avoir gagné comme à Montpellier ils ont attendu pendant un mois et demi en se disant ouais de toute façon le match de Clermont il est gagné sur
on va le gagner
il est forcément dans notre poche et finalement ils avaient fait match nul un partout à la fin du mois de novembre
et puis à l'arrivée au point de vue comptable où ça les a mis en difficulté et là je te rejoins Julien c'est que ils prennent un point seulement donc match nul et ils en ont perdu
un
donc
c'est un match à zéro
et que bah forcément
non c'est pas un match à zéro c'est moins 3 points
c'est moins 3 points, je me fais comprendre, mais à l'arrivée ça leur a fait 0.
J'ai vu qu'avec les maths t'avais un petit problème
j'ai eu un bac S, 6 journées à jouer, mais de la 29e à la 36e
il y a 8 matchs.
Jean-Mi, attends, j'ai pas fini.
Ah vas-y.
Non mais ça va pas ou quoi? Non mais attends, mais
c'était brillant, donc
ça va pas ou quoi? T'es pas avec Stephen dans Stephen Time le samedi soir. Non, je disais que avant de donner la parole à Jean-Michel, bien sûr, que Montpellier sur les semaines qui ont suivi ce match-là, c'est normal qu'il y ait un problème dans les pieds, dans les têtes. Mais derrière, la saison, elle est catastrophique. Moi, il y a eu des erreurs dans le recrutement, ça c'est sûr, c'est indéniable. Il y a eu la gestion de Michel Derzakarian qui n'a pas été bonne avec des joueurs d'expérience, c'est la réalité. Il a eu du mal à garder une certaine dynamique qu'il avait retrouvée quand il est revenu. Il ne faut pas lui retirer ça aussi. Et que là, franchement, je pensais, et on en avait parlé avec Julien il y a quelques semaines, je pensais que ce n'était plus l'homme de la situation. Et il a réussi à reprendre le dessus sur ce groupe, et tant mieux, parce que la Ligue 1 a besoin d'avoir Montpellier aussi, et comme tu l'as dit, l'année prochaine c'est les 50 ans d'un club comme Montpellier. Un bon clin d'œil à Loulou Nicolin, bien sûr, qui nous manque. Je suis désolé, pour le bien du football français, il faut que Montpellier arrive à assurer son maintien dès ce week-end.
J'en mis en quelques mots, est-ce qu'on ne doit pas se cacher derrière ce match? Péripétie importante, mais ça n'explique pas tout.
Oui, péripétie importante et décision comment dirais-je, indigne, parce que comme le dit Loulou, Nicolin, comment sanctionner un club pour un abruti qui jette un pétard, voilà, et mettre le club, tout le club en difficulté, d'autant que bon, je ne trahirai pas la parole d'un haut dirigeant de Montpellier que j'ai eu mercredi au téléphone, mais qui considère que le maintien de Montpellier en Ligue 1 est capital pour la survie de ce club. Donc ce match-là revêt une importance capitale dans un contexte étrange, parce que clairement va se jeter à corps perdu, mais on se dit, tiens, finalement, s'il y avait un abruti qui était derrière le but de Clermont et qui, voyant Clermont mener 1-0 à la 80e minute, jeter un pétard. Par exemple. Voilà, qu'est-ce qui se passerait? Donc je trouve que on a mis en difficulté une équipe, un club, pour un geste d'un irresponsable.
Merci, ça, en tout cas.
Ça, c'est dans la droite lignée des décisions.
Bon, après, n'empêche que ton ami Michel Derzakarian n'a pas été inspiré tout au long de l'année. Voilà. Aussi, hein.
Merci.
Mais ça, même si tu as du mal à lire,
merci Pélio, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Ils sont bien quand tu veux, Pélio.
Salut, Julien. Avec
plaisir. Tu peux t'accrocher. Pour les imitations de Jérôme, je reviendrai tous les vendredis.
Ah, bah bien sûr, t'as vu ça.
C'est qui meilleur?
Ah, Unai Emery. Messieurs, Jean-Michel Jérôme, le moment est important. Eh oui, on va faire plaisir à une personne fan de sport, fan d'RMC. Ah. C'est le moment d'offrir des places pour les Jeux Olympiques. On est bientôt à 100 jours de la cérémonie d'ouverture et c'est Maxime qui va tenter sa chance.
Il est où,
qui va avoir à choisir. Salut Maxime.
Bonsoir.
Maxime, ça va?
Traînez-vous.
T'es en forme, Maxime? Excite-toi un peu. Bah, il a gagné des places pour les JO.
Il est tendu.
Il a pas
l'air gueulé, non?
Il y a que de Rotel sans flamme que tu gagnes des places comme ça. Alors,
sois concentré,
Maxime. Alors,
les 100 places, les 100 dernières places des Jeux Olympiques.
Oui, bah, on s'en fout. C'est le choix qu'il a à faire.
Je donne le choix, Maxime. J'espère que tu as réfléchi. Les deux possibilités qui s'offrent à toi ce soir.
Soit tu vas nager dans la Seine qui est dégueulasse.
Non, soit... arrête. Ah. Écoute bien. Écoute bien, Maxime. Soit tu choisis deux places pour assister à la finale masculine du tournoi olympique de foot le 9 août au Parc des Princes. Magnifique cadeau. Ouais. Finale olympique, on espère qu'il y aura les Bleus tirés.
Ah, moi, j'espère qu'il y aura Léo Messi, j'ai préparé mon sifflet.
C'est vrai. Soit tu choisis ce cadeau-là, soit deux places pour assister aux demi-finales et aux finales de natation, une soirée de natation le 30 juillet à la Paris La Défense Arena. Il y a beaucoup de stars dans l'équipe de France de natation, notamment Léon Marchand. Qu'est-ce que tu choisis, Maxime? La natation ou le tournoi olympique de foot avec la finale?
La finale de foot. On espère que l'équipe de France y sera.
Et ben voilà, Maxime, écoute, félicitations.
Maxime, bravo à
deux
toi.
Places pour la finale.
Bravo,
de
Maxime,
foot.
Tu vas te régaler vraiment sur cette finale des JO. Magnifique. C'est la finale.
Le 9 août, c'est la finale.
Ah oui, c'est la finale
du tournoi olympique.
Ah ouais.
Ça va être
il n'a pas hésité longtemps avec la demi-finale. Il ne l'a pas fait rêver avec la demi-finale de natation.
C'est un fan de foot, il écoute Rotten sans flamme.
Tu aurais dû lui proposer le quart de finale de waterpolo aussi. Ah, peut-être que j'aurais préféré.
Et si vous aussi vous voulez tenter votre chance, parce que lui il est moqueur, mais vous savez ce que valent.
Sinon tu avais le choix aussi avec la 8e de finale de la lutte.
Arrête.
Le tir à l'arc est au programme.
Mais cette condescendance envers les Jeux Olympiques, je suis choqué. Hein.
Et la planche à voile devant la mairie de Paris.
Ouais. Pourquoi pas. Allez, on y va. On revient dans un instant, justement. Rotten contre le reste du monde. Jérôme en lice pour un grand chelem. À tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h50 sur RMC, on y va. 10 dernières minutes de Rotten sans flamme. Et oui, c'est le quiz de Julien Cazard en route pour un grand chelem. J'ai tout gagné cette semaine. Ça n'a pas porté chance au club français, je pensais. Et non, c'est une semaine noire pour les clubs français. 3 matchs, 3 défaites. Mais moi, c'est 4 matchs, 4 victoires. Et ça va continuer ce soir, j'en suis persuadé. Une équipe formée par Benoît
Jean-Michel
Boutron.
Larquet.
Donc c'est Jean-Michel Larquet. Et renforcé.
Et
non,
le fan numéro 1 du SMS,
François Pinet.
François Pinet avec nous, salut François. Ah,
oui. Salut les gars, m'a dit qu'il fallait te battre alors aujourd'hui.
Et
c'est pour ça qu'on a pris un médecin qui va redescendre dans Ligue 2.
Et dès qu'il y a un match de Metz, on met François Pinet sur RMC.
Ouais, c'est pour qu'il souffre.
Pour qu'il souffre à l'antenne.
C'est fait exprès.
Metz lance ce soir à 21h.
C'est sympa Metz lance.
Allez,
c'est
Jérôme contre François et Jean-Michel. Et on y va, c'est parti.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Profitons de Pinet pendant qu'il est encore là. Je parle de son club, hein. François, tu vas pas partir avec le FC Metz en Ligue 2 quand même.
Bah, je ne sais pas.
Avec nous.
Julien, je rappelle le cadeau. 1h30 de session de padel dans un club fort padel.
Padel.
Padel. Tariq et Xavier. Salut messieurs.
Salut Tariq. Salut Xavier.
Salut tout le monde. Salut, bonsoir à toute l'équipe.
Xavier, tu veux jouer avec qui? Tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Moi, je vais jouer avec Jérôme, j'ai confiance en lui.
Allez, Xavier, avec Jérôme et Tariq avec le reste du monde. C'est parti, Julien.
Ouais, visiblement, il est dans le quart.
Oui, il est dans le cube.
Question flash. Tout le monde est prêt?
On est là.
Oui. Quel international de l'équipe de France va devoir être opéré du genou? On vient de l'apprendre. Quel international de l'équipe de France?
Camavinga.
Alors, non. C'est lié à un match de l'équipe de France très récent. Très, très récent. Ouais.
Ah. Un international ou une internationale?
Colomboigny.
Peut-être que Jean-Michel a trouvé
le...
Le Sommer.
Eugénie Le Sommer, bonne réponse de François Larange-Pinet.
C'est quoi cette question?
Eugénie Le Sommer, c'est une star de l'équipe de France. Elle fera les Jeux
Meilleure
Olympiques.
Meilleure buteuse de l'équipe de France.
Eh oui.
Ouais. Et d'ailleurs, on a une petite pensée pour elle parce que voilà.
On a une pensée pour elle.
1-0 pour le reste de
l'équipe. Bravo,
Jean-Michel. Blessure au genou, c'est quand même pas super cool. Quel ancien coach de Lens était bon dans la surface alors que son cousin était bon dans la grande surface?
Leclerc,
bonne réponse de Jérôme. Il est là, mon GG, semaine de grand chelem, il est chaud. Non, il va revenir. J'ai une question. Qui est cultivé? Donc on va récupérer Jean-Michel. Quel ancien coach de Lens avait son bassin dans le nord près des mines?
Papin.
Et non, il y a un jeu de mots.
Giroud.
Pourquoi Roux? Quel ancien coach de Lens avait son bassin dans le nord près des mines?
Gilot.
Le bassin Gilot, le fameux bassin Gilot dans le nord.
Le bassin parisien, le bassin.
Non, dans le nord. C'est quoi les bassins? Quand il y a du charbon, plus ou moins, genre de charbon.
Filon.
Les bassins Fillon. C'est la rente qu'a trouvé.
Eh oui. Ça fait deux points.
Le grand chelem s'éloigne un peu, mais il est temps de réagir.
Kikawej ici, attention, je vais parler d'un très grand jugador.
Ah, oula.
Angers. Laval. Beauvais. Rouen.
Rouen, la vache.
Stade Mayennais.
Non.
Angers, Laval, Beauvais, Rouen, Stade Mayennais.
Ces clubs-là, pas
ouais. Et ce soir, il est concerné par un match.
Ah, je l'ai, je crois. Redis.
Ah, Angers, Laval, Beauvais, Rouen, Stade Mayennais.
Francaise.
Bonne réponse de François. François, grande jugador.
Le grand chelem est en danger là. Ça fait 3-1.
Il faut une question à deux points.
Jérôme.
Faut une question à deux points. Alors question à deux points. Ah, j'ai une question. À la Mourinho, on va dire. Qui est l'intrus? Deux points. Xuereb, Verel, Dehu, Klaus, Wallem, L'Aigle. Xuereb, Verel, Dehu, Klaus, Wallem, L'Aigle. Qui est l'intrus? Deux points en jeu. Deux
c'est
points.
Tous c'est deux points.
Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Michel.
Wallem parce qu'il n'est pas international.
Il revient dans le game. GG.
3 partout entre Jérôme et le reste du monde. Il reste 2 minutes 40.
Je pense qu'il faut une question que qui écoute, mais une question larquée.
Allez.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
C'est moi le dinosaure.
Vous entendez?
C'est Xavier qui est dans la vestiaire.
Xavier et Tariq. Ils sont déjà bourrés. Hein.
Mais
j'ai moins bu.
Ouais, Xavier.
Ah, il est dans le bus pour aller à Metz, lui, supporter en soi, incroyable.
C'est beau.
Je suis là.
Ah, magnifique.
Il va être avantagé.
Allez, vas-y.
Quel ancien président d'un des deux clubs de ce soir était moins belliqueux que son cousin de Poitiers?
Charles Martel.
Gervais Martel, parce que Charles Martel n'était pas président du club de Lens.
C'est Xavier.
C'est Xavier qui a répondu?
Ouais. C'est le nôtre.
Et c'est Xavier aussi pour Jérôme. Ça fait 4 à 3.
Yes.
Jérôme qui prend l'avantage pour la première fois dans ce quiz.
Question à 2 points.
C'est Xavier.
Question à 2 points pour vous.
Un joker.
Oh, c'est pas possible. Un joker.
Ouais, il a un joker.
C'est toujours Boutron. Je le mettrai entre Arnaud Souk et François Pinet.
Bah voilà. Alors ce soir, je suis entre Jérôme Bretel et François Pinet.
C'est un hommage. Je prends comme un hommage.
Deux journalistes de qualité.
Ah oui, François, tu es le premier. Mais c'est la première fois que je l'entends en étant ici dans ce studio. Merci Julien, j'en profite.
Avec plaisir. On va faire un kiki crack, mais sauf que c'est une question d'Imeco.
Éric Dimeco.
Mais il est fou ce mec. Oui. Oh, donne-lui une gifle pour moi. tu dis bien que c'est moi qui l'ai mis.
Et un peu triché, mon vieux. Et pardi.
Ah, pas les couilles.
Alors, on peut tricher. Vous allez chacun votre tour me donner le nom d'un joueur qui a joué à Lens et à Metz. On commence par Jérôme.
À Lens
et à Metz.
Et à Metz.
Oh, oh putain. À deux périodes différentes, t'as bien entendu, mais même pas en même temps.
Mérieux.
Mérieux, c'est bon. Pinet.
Jocelyn Blanchard.
Oui. C'est bon. Jean-Michel.
Passe mon tour.
Oh bon, il, alors le passe-mon-tour n'a pas joué.
Robert passe-mon-tour.
Robert passe-mon-tour n'a malheureusement pas joué dans les deux clubs. Jérôme. Voilà, Jérôme.
Wow. Bah, attends, attends. Rodriguez.
Ah oui. Rodriguez, c'est bon.
Bravo.
Attends, moi. Non. Alors,
il a passé son tour, Jean-Michel, donc c'est à la rente. Pinet.
Maoulida.
Maoulida, c'est oui, bon.
Il a fait 15 000 clubs. Alors bah, tu m'étonnes.
T'as le droit de tricher, hein.
Tu sors Maoulida, t'es
t'as
sûr.
T'as le droit de tricher, Jérôme.
Je déjà,
En scred, bah, faut tricher scred, en scred. Hein.
Song, Rigobert Song.
Oh. Rigobert Song, c'est bon.
Il y a eu de la triche, là. Non.
François.
Moi,
pas
de tricher, hein,
mais il a le droit.
Non, mais moi,
il
je triche pas.
N'écoute pas.
Oh. Allez, François, à toi.
Tu vas pas te mettre à tricher,
François.
Quand même.
Allez, François. Une fois.
Pas toi.
François, deux fois.
Vercuit,
c'est bon.
Bah oui.
Bien sûr.
Ah, bravo.
À toi, Jérôme.
Non, je triche pas, Jérôme.
Il y en a un qui t'a fait rêver. Il y en a un qui t'a fait même. Il t'a fait briller.
Hein?
Un gardien qui t'a fait briller.
T'as qu'à lui donner aussi.
Oh merde, un gardien!
Une fois.
Letizy. Non,
c'est
faux. Marichèze.
Marichèze, c'est bon.
Marichèze sans triche, bravo. Ben oui, ouais. J'ai sans souvenir de celui-là.
Ah bah mais oui, y a que, y a, non mais c'est le seul gardien à qui il a mis un but.
On se souvient pas de Marichèze à Metz, comment c'est possible?
Le but, le but commenté par Pierre Dorian.
Allez, vas-y.
Rodriguez. Bruno Rodriguez.
Déjà dit. Oh là là, deux points pour Jérôme. Question à trois points.
Question à trois points très rapide. Mais
c'est énorme.
Si Jérôme perd, ça fait une balle de match. Dépêche-toi.
Question, parce que c'est trois points, parce que c'est une question à un kick, c'est type pourri. Quel ancien Lensois était utilisé dans les cuisines pour tuer les rongeurs? Il est pourri celui-là, le jeu de mots. Quel ancien Lensois était utilisé.
Morera.
Daniel Morera, bonne réponse. Balle de match.
Il est fou celui-là.
Ouh là là.
Attention. Question qui est tordue. Question qui est tordue. Quel international grec passé par Benfica a enchanté la Ligue 1 et l'OM?
Grec. Lechkov. Non. Grec.
Mitroglou.
Zalatoris.
Mitroglou.
Et le grand chelem qui s'envole sur une balle de match le vendredi. Incroyable. Et c'est Tariq qui remporte le magnifique cadeau.
Roten sans flamme sur RMC avec Fort Padel. Plus de 20 centres de padel et premier réseau de clubs de padel en France pour jouer entre collègues et amis. Réservez votre piste sur fortpadel.fr. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.